Bonjour et bienvenue pour ce SAV de la F1 consacré au Grand Prix de Bahreïn. Un Grand Prix sous le signe du sable, le sable du désert, mais ça vous le savez déjà depuis plusieurs années. Mais cette année, sous le signe du sable, du marchand de sable. Vous savez, ce type qui tous les soirs visite avec un ours pervers des enfants prépubères et dont le boulot consiste à balancer du sable sur la gueule des gens pour qu'ils roupillent. Ce qui est une idée complètement conne, sauf si tu veux envoyer tes gosses aux urgences ophtalmologiques du CHU le plus proche. Car oui, le marchand de sable peut être en train de faire ses stocks, au Bahreïn, on sait que du sable il y en a décidé de faire un petit tour donc sur le Grand Prix ce dimanche, car il faut annoncer la couleur tout de suite, on s'est grave fait chier. Et pourtant, des courses chiantes, en tant que fan de F1, on connaît. Pour parler ce soir de ce Grand Prix qui restera, ou je ne sais pas, mais qu'il restera quand même, j'en suis sûr, je ne suis pas seul bien sûr. Bonjour Yannick. Ou plutôt devrais-je dire bonjour Dino.
Bonjour.
Mais bonjour Enzo.
Nous ne sommes pas seuls.
Bonjour.
Et Enzo, il faut oui. Le dire, tu reviens d'une expérience traumatisante, le genre d'expérience qui change un homme. Alors Enzo, tu es là pour le SAV, mais tu es aussi là pour témoigner. Enzo. Comment s'est passée ta séquestration?
C'était terrible en fait. J'ai été détenu pendant 2 semaines et j'étais attaché à une chaise face à une télé et on passait des courses de Super League Formula. C'était vraiment une horreur.
Ne te moque pas. Enzo.
Oui.
Dans ces heures terribles, je me dois de poser cette question qui n'est pas une question facile, qui n'est pas une question évidente. Enzo, as-tu un favori pour cette nouvelle saison qui débute?
Je pense que le couple Michael Schumacher-Ross Brawn veut vraiment bien faire cette saison. Et puis Ferrari a une vraie revanche à prendre. Hein. L'an dernier, ils auraient dû remporter le titre sans l'accident de Schumi à Silverstone. Mais je suis plein d'espoir pour la Scuderia, là, pour remporter ce dernier titre du 21e siècle, parce que ça fait quand même 20 ans qu'ils ont plus de titre pilote et j'y crois à fond, quoi.
Ne te moque pas! C'est déjà assez dur, c'est ça.
Voilà. Je pense que Schumi sur Ferrari, là, il a toutes ses chances.
Bien sûr, Enzo. Bien sûr.
Mais pourquoi il se marre, dis-nous?
Non, désolé, c'est le choc post-traumatique de te retrouver. Ouais. Et de savoir que Schumacher est chez Ferrari, ça me perturbe.
Pourquoi tu dis ça?
Non,
il y est plus?
Parce que j'ai fait un rêve.
Non, mais attends, il y est plus?
Ah, disons que...
Il a quitté la Scuderia. Et maintenant que Irvine est parti chez Jaguar, qui c'est qui est avec Barrichello alors?
Attention, dis-nous à ce que tu vas dire.
Et il est où Schumi?
Schumi,
il est dans l'équipe de Ross Brawn.
Ouais, voilà.
Voilà.
Mais chez Ferrari alors?
En fait, si tu veux, Ferrari, ils ont changé de couleur.
Non, mais, voilà. Non, mais je veux la vérité, il est chez qui, là?
Ouais, il est chez Ferrari, mais en fait, Ferrari, si tu veux, il y a la crise économique, etc. Et...
Ne mens pas, Dino. Dis-moi la vérité.
Bon, écoute, Enzo, faut qu'on te le dise, c'est dur. Bah, Schumacher, il est en F1. Rassure-toi, il est en F1.
Déjà, oui, il est en F1.
Il a deux jambes. Mais il roule plus pour Ferrari.
Il roule chez qui alors?
Il roule chez Mercedes.
Qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe de Rome de Nice?
Oui,
c'est le coéquipier de Hakkinen.
Il y a un autre épisode après.
Il y a toujours McLaren. C'est toujours McLaren Mercedes, mais il y a Mercedes à côté de McLaren Mercedes.
D'accord. Voilà, et c'est qui son coéquipier?
Oui. Alors, Rosberg.
Non, Kiki Rosberg. Il revient en F1.
Pas Kiki.
Mais il est pas trop vieux. Il doit avoir au moins 41 ans, Kiki Rosberg.
À peu près, oui. Dis-moi, Enzo, t'es sorti lundi enfin tu t'es échappé lundi de là où t'étais séquestré.
Voilà. C'est ça.
Donc, t'as pas vu le Grand Prix.
Sinon,
faut qu'on les regarde ensemble parce que tu vas avoir des chocs quand même. En 10 ans, il s'est passé des choses.
C'est la Super League Formula, ça m'a détruit le cerveau complètement.
Alors, revenons à 2010. Ouais. N'est-ce pas, Enzo? 2010. 2010, hein. Ah, d'accord. Revenons au Grand Prix du Bahreïn.
Oh, ça va être chiant.
Non, moi, je l'ai trouvé bien, cette course.
C'est tellement chiant que j'ai même pas envie de balancer sur ce grand, sur cette piste. Parce que, déjà, c'est, il y a une espèce de niveau, à un moment, ça atteint un tel niveau que tu te dis, pfff.
Voilà. Voilà.
Donc, Grand Prix du Bahreïn, qui avait lieu le 14 mars.
Ouais, j'ai dit, tu veux peut-être quelque chose aussi avec, pour introduire ta nouvelle rubrique?
Oui, un petit jingle, voilà. C'est toujours...
Attention, c'est du collector.
C'est comme la cerise sur le gâteau.
Voilà.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride.
C'est nul.
Oh, c'est nul. Elle fait. C'est un jeu de mots. C'est pas drôle. En fait.
C'est comme le premier jingle qui assume son côté nul.
Voilà.
Bon. Revenons au 14 mars. 14 mars, la Sainte Mathilde. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars?
Ah, il n'y avait pas un chiffre. Et attention.
Ah non, il y en a plusieurs. Et j'espère. Alors bien évidemment. Pas de navigateur internet.
Oh merde.
Pas de navigateur smartphone non plus, hein, parce que je suis à la page, hein. On m'a pas comme ça.
Ça se sent.
Commençons par le 14 mars 1590. Où un mec a dit quelque chose.
Mais ça parle pas de F1, ça.
Bah non, mais je parle jamais de F1. Si tu te rappelles le chiffre inutile, ça parlait pas de F1.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui.
14 mars, il a dit j'ai fait un rêve où un jour je suis marrant.
Non. C'est lors de la bataille d'Ivry. Bon, qu'est-ce qu'on a dans une bataille du Moyen Âge en règle générale?
Des chevaux, des chevaliers.
Oui.
Des catapultes.
Oui.
Et à mon avis, il a dit tiens, prends-la dans la gueule cette grosse boule.
Peut-être. Mais pour diriger tout ça.
À l'attaque.
Un général.
Mieux qu'un général. Un roi.
Il y a un roi qui s'est tué.
Ah maintenant il a dit un truc.
Ah, il a dit
Veni Vidi Vici.
C'est pas le même.
Ça, c'est Michael Schumacher qui l'a dit.
1590 et on est en France.
Eh bien il a dit je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu.
Putain, j'ai honte, j'ai fait histoire, je sais même pas qui c'est qui était à Rouen en 1590.
Voyons 1590.
On va dire que c'est
Henri IV. Ah bah oui, là on va Henri IV. C'est Henri III non?
C'est Henri III là.
Donc c'est Henri III futur Henri IV.
Putain, je suis trop fort, j'ai dit ça ou pas?
Henri III futur.
Tu t'es fait crier par Enzo.
Henri III futur Henri IV.
Oui, parce que Henri IV de France et Henri III de Navarre.
Ah ouais, non, mais moi je parlais d'Henri III. Henri III, celui qui était avant Henri IV.
Voilà.
Arrête donc.
Et alors, qu'est-ce qu'il a bien pu dire?
Je me suis sorti les doigts du cul.
Ça, si c'est pour plaire au bachelor, hein, tu dis ça.
Il va essayer de se reconnaître.
C'est une de ses phrases les plus célèbres.
La poule au pot?
Non, en pleine bataille.
Ah bah. J'aurais pas venu.
Eh non, il a dit, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire.
Et t'es sûr que c'était le 14 mars et pas le 15?
C'était le 14.
Non, c'était un matin. Non, c'était un matin. C'était même le jour de la messe.
Autre 14 mars.
Oh putain, il y a plus dur.
Non, mais il y a que deux dates. Un autre 14 mars. Et attention, Yannick, Dino, c'est pour toi normalement.
Oh.
C'est une élection.
Américaine.
Non.
Elle est régionale.
Non.
En France?
Pas en France.
Élection au Liban?
Aux États-Unis?
Non, c'est plus proche.
En Italie?
En Italie?
Élection de Silvio?
Mussolini?
Non.
Silvio?
Non.
Élection. Victor Emmanuel? Non.
Du pape?
Eh, tu t'es encore fait griller par Enzo. Le 14 mars 1861, le premier parlement italien consacre Victor Emmanuel II de Savoie.
Non mais, c'est normal, le mec il s'appelle Victor Emmanuel, ça c'est fait pour Enzo, ça. Oh non, mais là tu triches.
C'est qui l'amoureux d'Italie ici?
Mais ouais, mais moi je dis...
Eh, c'est qui a des jeunes italiennes?
Ouais, voilà, je perds avec honneur.
Alors... Les naissances. Le 14 mars 1879 à Ulm. C'est un homme.
Denis Ulm.
Il a l'appart.
Jacques.
Je sais pas, le mec, il est né à Ulm. Ça se trouve, c'est Denis Ulm.
C'est Jacques.
Non.
Jacques Ulm.
Non. Il a la particularité d'avoir eu, au cours de sa vie, 4 nationalités différentes. Il a même été apatride.
Schumacher.
Non. Il a travaillé à l'office des brevets de Berne.
Comment, je sais.
T'as des boules.
Non. E égale MC2.
Einstein.
Einstein.
Comment tu te fais griller par Enzo?
Non, c'est moi qui ai dit le nom.
Non, il a dit Einstein avant.
Non, j'ai dit Einstein.
Oui. J'ai dit E égale MC2.
Bah j'ai dit Einstein.
Enzo, il a dit E égale MC2, Einstein.
Non, j'ai dit Einstein, c'est moi qui... Je vais quitter ce jeu, je vais me faire manger par des tribus nomades et voilà.
Alors, autre naissance en 1958.
On m'en fout. Ah.
C'est encore une tête couronnée.
Bah c'est Albert II de Monaco.
Bravo, il y a oui, c'est Albert II de Monaco.
J'ai un petit peu de sang monégasque.
Bon, 3 et 1, 3 et 1. <C'est>... Alors...
Ils nous ont quitté ce jour-là.
Oh merde. Albert de Monaco.
Non. 1883. Un philosophe et économiste.
Lévi-Strauss.
Non.
Nietzsche.
Marx.
Alors, non pas la barre au chocolat Mars, hein, mais bien.
Karl Marx.
Un des ses plus récents. 1932. C'est un Américain.
Neil Armstrong.
Et lundi, c'est clic-clac.
Canapé.
Kodak.
Oui, mais il s'appelait comment?
Gold.
Non, c'est bien le fondateur de Kodak, mais il s'appelait pas Kodak.
Je sais pas.
C'est George Eastman.
Comment tu veux qu'on sache ça, nous?
Les fêtes du jour.
Et surtout, comment veux-tu qu'on les retienne?
Ouais, voilà.
Vous avez déjà pas retenu les chiffres l'an dernier.
Oui, mais je vais te dire un truc. Je vais te montrer que ton émission, ta rubrique, elle est encore plus inutile que l'an dernier. Parce que l'an dernier, le chiffre inutile, on pouvait l'utiliser à la machine à café. Tandis que là, on va pas l'utiliser, la date elle est passée. Tu nous parles du dernier Grand Prix. En fait, tu devrais faire ça en avance, tu devrais nous présenter la date du prochain Grand Prix.
Ah ouais, c'est pas con ça. On commence en jouant l'air de la rubrique, j'ai dit, allez hop.
À noter que le 14 mars est la journée internationale de Pi.
De Pi?
Ah oui, mais ça fait 3-14 ans, mais...
C'est débile.
N'importe quoi.
Et que, en Corée du Sud, au Japon et en Taïwan, c'est le White Day. Alors, le White Day, c'est la réponse de la Saint-Valentin. C'est-à-dire qu'à la Saint-Valentin, les filles, elles offrent des chocolats aux mecs. Et un mois plus tard, les mecs, ils doivent offrir quelque chose qui a du blanc. Sauf que faut que ça soit 3 fois plus cher. Donc, n'acceptez jamais de chocolat le jour de la Saint-Valentin.
Ça me rappelle une blague, mais bon, bref.
Le suspense. Y en a trois? Non.
Non. Et sinon, il y a le 14 mars 1993.
C'est de la F1?
Et qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars 1993?
C'était de la saison en 93.
Et c'était où?
Brésil.
Perdu.
Et quel ami?
Ah, exact, quel ami.
C'était en Afrique du Sud. C'est le dernier Grand Prix à avoir eu lieu en Afrique.
Ouais, c'est facile.
Et
dans le volant de...
Et qui a gagné
c'est
Michael Schumacher.
Prost,
exact. Deuxième.
Damon Hill. Non, Damon Hill, non, il s'est planté. Senna.
Senna et troisième.
Troisième.
Troisième, c'est plus intéressant.
Jean Alési.
Non.
Oh la veuve.
Attends. Je vais trouver.
Ça va durer 3 heures.
Non.
C'était leur premier podium depuis 1986.
Une Ligier.
C'était Ligier. Mm. Alors, lequel des deux?
Ligier, Marc Blundell,
exactement.
Putain, je suis fort, hein.
Alors là, je suis plus et du tout dans les missions, là.
Et... hein, et qui c'est qui a débuté lors de ce Grand Prix?
Damon Hill?
Non.
Non, il a fait, il a parcouru avant. En 93, qui est-ce qui a débuté? Ouais. Non, Barrichello.
Yes! Yes! Jordan Hart.
Mais c'était pas le seul.
Ah non, c'était pas le seul.
Ah, bah, c'est le seul qui reste aujourd'hui. Hein.
Voilà. Oui, certes.
Voilà. Voilà, c'était tout pour l'éphéméride.
Ouais.
Merci, Shinji.
C'est vrai, merci. Ça fait plaisir.
Oui.
Dino, tu couperas en montage.
Oui, t'inquiète. Non, bah, c'est drôle, c'est que Shinji pensait qu'il allait être peinard, voilà, il allait devenir le chef et tout. Mais il a pas compris, en fait. C'était une stratégie entre Enzo et moi pour qu'on se mette tous les deux à lui foutre le bazar dans l'émission. Grand pavé, mon vieux.
Oh oui. Et là, je sens que déjà, je vais être dans un état...
En transe.
Incroyable. Ouais. Alors, nouvelle rubrique.
Encore.
Bah oui.
Les pauvres auditeurs, ils vont être paumés.
Ah ouais, voilà. Ils vont être perdus. Rassurez-vous, un jour, on va parler du Grand Prix. On sait pas quand, mais on va essayer.
Non, mais moi, j'y fais dans la continuité. C'est toujours aussi inutile.
C'est vrai.
Hein. Alors que désormais, au lieu de parler de l'actu, hein, bêtement et simplement,
bah oui.
On a mieux que ça, n'est-ce pas, Dino?
On a notre JT. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour ce Flash Info.
Bonjour à toutes et à tous et ouvrons directement ce Flash avec les titres.
Formule 1, la F1 connaît un nouveau drap.
Stop. Attends, Dino, pourquoi tu précises Formule 1 ?
Bah, parce que c'est une news sur la F1.
Oui, mais de toute façon, c'est un JT de 100% F1, donc ça sert à rien de préciser, quoi.
Bon, bah alors, je dis quoi ?
Bah, je sais pas, moi, c'est quoi le titre, là ?
Une alerte enlèvement.
Non, mais là, c'est bon, je suis de retour, je l'ai déjà expliqué, on va pas parler
non,
de
non,
ça.
Non, c'est pas pour toi, c'est... Attends, je vérifie quand même, on sait jamais. L'enlèvement, non, destruction... Ouais, c'est ça, c'est pas pour toi.
Bon, bah, je sais pas, t'as qu'à dire disparition, voilà, ça c'est pas mal, disparition.
Bon, alors... Disparition. Après Enzo, la semaine dernière, le service après-vente de la F1 a publié une nouvelle alerte enlèvement pour signaler la disparition d'une écurie de Formule 1.
Oh là, ça me rappelle quelque chose.
Ah non, c'est impossible. C'est de l'info de la première bourse.
T'es sûr de ton coup, là, Dino ?
Oui, certain. C'est une information exclusive certifiée par Dino lui-même.
Ouais, bah ça promet. Bon, allez, continue.
Non, mais c'est bon, arrête. Tu vas encore me réinterrompre. Je vais devoir recommencer.
Mais non.
Tu promets ?
Je veux pas te le promettre, mais quand même, mais bon, allez, vas-y.
De toute façon, moi, je m'en fous, hein. Si tu me réinterromps, je me casse.
Mais je vais pas te recouper, allez. Bon, enfin, je vais essayer.
Bon, alors j'en étais où? Bon, pour signaler la disparition d'une écurie de Formule 1. Portée disparue depuis le début de l'année, l'écurie américaine USF1 a été aperçue pour la dernière fois aux environs de Charlotte, mais n'a plus donné signe de vie depuis.
Oh, Dino, stop.
Oh non, Enzo, putain, j'en ai marre, là. T'as décidé de saboter notre première édition, ou quoi?
Désolé, mais je suis obligé de couper, là. Écoute, tout le monde est au courant pour USF1, quoi.
Comment ça?
Bah, la F1 l'a annoncé il y a déjà plusieurs semaines, déjà, que USF1 ne participerait pas au championnat 2010. C'est pas un scoop, si tu veux, quoi. Donc, nos auditeurs doivent tous, plus ou moins, le savoir.
Attends, t'es sérieux? Ils ont plus disparu, USF1.
Mais non, du moins, si ils ont disparu, mais plus personne le cherche, quoi, d'ailleurs. On se demande même s'ils ont déjà existé, quoi.
Ah, comment on va faire, alors? J'avais que ça comme titre.
Bah, faut impérativement que ce soit quelque chose qui a disparu.
Ah bah maintenant que j'ai lancé le coup de l'alerte enlèvement, ouais, ça me ferait mal quand même.
Bon, on va trouver un truc. Attends, qu'est-ce qui a disparu ces derniers temps? Ah bah tiens, j'ai trouvé.
Ouais, vas-y.
Bon allez, je le fais alors.
Ouais, vas-y, je te fais confiance. Hein.
Disparition toujours après le Grand Prix de Bahreïn, le petit monde de la F1 est en émoi après la disparition de l'intérêt des courses. Apparu pour la dernière fois au Brésil le 18 octobre 2009, les courses animées et disputées sont en effet portées disparues. D'après les premiers résultats de l'enquête, la FIA ainsi que les écuries de Formule 1 seraient les premiers suspects de cette affaire, même s'il reste à confirmer lors des prochains Grands Prix que l'intérêt des courses a bel et bien disparu. Affaire à suivre donc.
Et tout de suite, passons aux infos en vrac.
Formule 1, l'intersaison avait bien évidemment été marquée par le retour retentissant de Michael Schumacher pour le compte de Mercedes. Provoquant l'admiration de certains et la crainte d'autres, ce retour du septuple champion du monde a suscité quelques vocations du même genre. Longtemps cité, Jacques Villeneuve aura vu toutes les pistes se refermer devant lui suite à la non-retenue de Stéphane Grand Prix, avec lequel il semblait pourtant avoir lié sa destinée. Plus surprenant fut la nouvelle annonçant un retour de Ralf Schumacher, je n'attendais que ça, qui, selon diverses sources, aurait proposé ses services à plusieurs écuries dont Renault. Finalement, sans baquet, l'Allemand, retiré en DTM depuis l'année dernière, aurait étudié plusieurs possibilités, à commencer par le retour d'anciens pilotes comme commissaire lors des Grands Prix. Mais finalement, c'est bel et bien sur la piste que l'on devrait retrouver le frère de vous savez qui, puisqu'une rumeur l'annonce au volant de la voiture médicale. C'est en effet un poste où l'Allemand semble le plus qualifié, étant donné le nombre de fois où il a regagné le stand à son bord.
Le championnat du monde de WRC, après avoir été débarqué de Maranello, Kimi Raikkonen a animé l'actualité des transferts durant l'intersaison, avant de se tourner définitivement vers le rallye pour sa passion. Le Finlandais a débuté sa reconversion sportive sur des terres familières, celles du rallye de Suède, où il a souvent goûté les murs de neige et où il a pu faire sa provision annuelle de glaçons. Le Finlandais s'est ensuite rendu en Amérique centrale pour participer au rallye Corona du Mexique, sponsorisé par la célèbre marque de bière mexicaine, un rallye remporté par Sébastien Loeb, dont Iceman est reparti avec 6 tonneaux. Que les fans se rassurent, les prochains rallyes auront lieu en Jordanie et en Turquie. Il y a fort à parier que pour une fois, Kimi Raikkonen verra la fin du rallye.
D'ailleurs, on nous informe que le trophée Indros serait très intéressé par une participation du champion du monde 2007 à la compétition de course sur glace. Pour les organisateurs, il s'agit là d'une excellente opération marketing, le Finlandais étant aujourd'hui passé maître dans l'art de réduire sa monoplace en compote.
Formule 1 à nouveau, la saison 2010 a commencé avec les célébrations des 60 ans de la F1, depuis le premier Grand Prix organisé en 1950 à Silverstone. Pour l'occasion, tous les champions du monde encore vivants étaient réunis pour une photo de famille collector, et certains ont même pu s'offrir quelques tours du circuit de Bahreïn à Lévenard, à bord de leur monture victorieuse. Deux absents de marque cependant, Kimi Raikkonen dont l'attention, comme nous l'avons vu, est focalisée sur le rallye, mais aussi Nelson Piquet Senior, dont la Brabham BT52, qui lui avait permis de remporter son deuxième titre en 1983, l'attendait pourtant dans les paddocks. Aucune raison officielle n'a été invoquée quant à l'absence du triple champion brésilien, même si on s'autorise à penser, dans les milieux autorisés, que Nelson Piquet serait resté au Brésil en attendant que sa Brabham BT49C et sa Williams FW11B sortent de chez le garagiste, après que Junior ait bien évidemment fait une virée avec le week-end dernier.
Polémique à la veille du Grand Prix d'ouverture de la saison, nombreuses étaient les voix à se soulever contre le rythme des nouvelles équipes qui, lors des essais, rendaient parfois jusqu'à 5 secondes à leurs rivaux du premier plan. Pour de nombreux pilotes, c'est le risque d'accident causé par la différence de rythme entre ces monoplaces et les leurs qui est la principale source d'inquiétude, et certains observateurs de la F1 utilisent d'ores et déjà le terme de « chicane mobile ». Une chose est sûre, avec ces 6 chicanes mobiles, les chances d'un retour de Ralf Schumacher sont désormais réduites à néant.
C'est ainsi que nous allons conclure cette première édition du JT du SAV. Nous vous invitons bien évidemment à rester sur notre antenne, à suivre la question actu qui passe inaperçue.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue.
Youhou ! L'actu, où es-tu ?
Alors messieurs...
Oui.
Vous vous rappelez le principe de la question actu? Pas d'internet, pas rien. En même temps, je suis pas sûr que ça vous aide, alors.
Nous t'écoutons.
Alors, la question est simple, claire et précise. Quelle course de plus de 25 000 km s'est terminée ce week-end à Bahreïn et ce n'est pas le Grand Prix?
C'est un truc de voile?
Ouais.
Non.
Des avions?
Non.
Une course à pied?
Non.
En ski?
Non.
En chien de traîneau?
Non.
En voiture?
Non.
En vélo?
Non. Enfin, je serais tenté de dire, là je dis non depuis tout à l'heure, j'aurais très bien pu dire aussi oui à toutes les questions, puisque...
Ah, c'est multisport, en fait.
C'est pas multisport, mais c'est multitransport.
Multitransport. Non, j'allais dire un truc, mais c'est non.
Ah non, vas-y, t'es obligé.
Ah oui.
Non, j'allais dire en fauteuil roulant, parce que ça doit bientôt être les JO paralympiques, pas olympiques.
Oui, mais c'est pas Bahreïn, les JO. Parce que moi, je rappelle.
Ah, ça s'est terminé à Bahreïn.
Ah bah oui, ça s'est terminé à Bahreïn.
Eh ben, la course au début de saison.
Non. Mais, il y a un rapport.
La chasse aux sponsors.
Non. Mais, il y a un rapport.
C'est les kilomètres parcourus, depuis la fin de la saison dernière? Non.
Je sais.
Ah, tu sais.
C'est la course de promotion de Button après son sacre.
Non.
Ou de sa coupe qu'il a...
Aucun rapport avec Button.
Bah, d'un pilote.
Pas spécifiquement avec un pilote, même s'il y a quelques pilotes qui sont concernés.
Alors, c'est...
Red Bull ? C'est lié à Red Bull ?
Non.
Une course de 25 000 km ?
C'est une course autour du monde ?
J'utilise le mot course, mais c'est pas véritablement une course.
Ah.
C'est parti d'un point A pour arriver à un point B, comme Bahreïn.
Ah, tu triches, alors.
Oui, mais c'est... Il y avait un départ, il y avait une arrivée.
Eh bien, pouf.
Mais Enzo était pas loin tout à l'heure quand il parlait de JO.
Le relais de la flamme ? Non, bah non.
La Coupe du Monde. La Coupe, elle voyage là en ce moment.
La Coupe du Monde, non.
De foot.
Mais elle était à Paris ce week-end. Elle pouvait pas être à Bahreïn.
Oui, je sais. Oui, c'est vrai.
Shiji était pas trop loin quand il a dit ce qu'il a dit.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Mis à Paris. Le relais de la flamme?
Ah, c'est pas trop loin.
C'est un rapport avec les jeux?
Pas du tout.
C'est tout autour de la planète.
Pas tout autour de la planète, mais ils sont passés par quelques points stratégiques de la planète. Je peux même vous dire par où ils sont passés. Ils sont partis de... Non, je vais pas vous dire de où ils sont partis. Mais ils sont passés par Londres. Ils sont passés par Sao Paulo. Ils sont passés par Mönchengladbach en Allemagne.
Je sais pas. Est-ce que c'est un sponsor?
Ah, c'est lié à un sponsor, oui.
Santander.
Ah, c'est lié à Santander.
Eh bien, j'en sais rien et ça m'énerve.
C'est lié à la flamme de Santander.
Eh oui, c'est lié à la flamme de
Santander. Ah oui, c'est les coupes, leur nouvelle coupe, leur coupe toute pourrie. Oui.
Eh bien, figurez-vous que Santander, pendant l'intersaison, apparemment, se faisait chier avec un pilote à je sais plus combien de millions chez Ferrari. Donc, ils ont eu l'idée de lancer leur propre relais de la flamme de Santander.
Et ils ont parcouru tous les sites où il y aura le Grand Prix.
Ils sont juste allés jusqu'à Bahreïn en faisant un grand détour. En passant notamment parce que cette année apparemment Santander va sponsoriser deux nouveaux grands prix, le Grand Prix du Brésil.
Oh non.
Et le Grand Prix d'Angleterre.
Mais le pire c'est que j'ai vu Alonso en photo avec cette putain de coupe.
Et bah oui.
Et sur le podium, je me suis dit ah bah c'est bien. Au moins il lui a pas filé la coupe toute pourrie.
Mais en fait l'espèce de coupe, c'est ça la flamme. Et en fait ils ont fait partir la flamme de l'Espagne aux environs de Madrid. Elle est passée par Londres. Par Mönchengladbach en Allemagne, par Sao Paulo au Brésil et par Maranello, mais ça je vous l'avais pas dit, avant d'arriver en fin de semaine à Bahreïn, ce qui a donné lieu à une espèce de cérémonie avec Felipe Massa, Fernando Alonso et Bottin, le président de Santander, devant le stand Ferrari. Mais le trophée n'a pas voyagé seul puisqu'il a été accompagné d'un livre d'or. Qui a parcouru les 25 000 kilomètres et qui a récolté le nombre de signatures le plus impressionnant que j'ai jamais vu, à savoir une centaine.
Donc, je veux le livre d'or pour marquer, c'est trop fait, c'est de la merde.
Dont celle de Felipe Massa et Fernando Alonso. Donc on peut dire qu'il y a eu 98 signatures.
C'est peut-être que des gens du staff de Ferrari.
Voilà.
Ah, il y en a déjà la moitié qui ont fait la gueule alors.
Alors cependant quand même l'opération n'était pas que marketing, même si elle était beaucoup marketing.
Oh, à peine.
Puisque ça a également été l'occasion pour Santander de collecter de l'argent au passage. Bon, vu qu'il y a eu 100 personnes qui ont signé le livre d'or, je pense que... Mais en fait l'idée c'était apparemment de créer un projet universitaire pour créer les nouveaux traders de demain.
Ah ouais.
Ou les nouveaux ingénieurs, je sais pas, j'ai pas plus d'infos.
Une école de design de trophées, ça serait pas mal.
Ça, je crois qu'ils ont pas envie d'investir.
Faudrait proposer.
Donc voilà, messieurs, ça c'était la question actu qui passe inaperçue. Je...
Passons à la course.
Ouais.
Mais complètement, ouais.
Ouais.
Franchement, alors je vais le crier bien fort. Je ne me suis pas fait chier pendant cette course.
Parce que tu dors déjà avant.
J'ai été sidéré par le nombre de messages de gens qui ont trouvé cette course chiante. Et ben moi, et sincèrement, ça me manquait tellement que franchement, je l'ai trouvé bien.
Ouais, mais en même temps, le résultat aurait été différent. Tu l'aurais pas trouvé plus chiante quand même. Parce qu'il y a aussi ça. Hein.
Non, même pas. Bon. Non, sincèrement, j'étais content qu'ils reviennent. Je trouvais qu'au début, bon, ça s'est animé un peu. Bon alors ou bien je me suis fait berner par le discours de Lafitte qui nous disait vous voyez à la fin ça va être mieux, il va avoir des problèmes d'essence et tout.
C'est un peu ça. Ouais.
Peut-être que je me suis fait avoir, mais je sais pas, moi ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait plus de ravitaillement, de voir le ravitaillement de Vettel, ça il m'a ébloui la rapidité, j'étais content de revoir un ravitaillement en 3 secondes. Franchement ça.
Ah non, c'était pire.
Non mais sérieux, le début.
Ouais, il y avait des trucs bien. Ouais.
J'ai aimé ce Grand Prix.
Non, sérieux, le début de course, il était pourri quand même.
Pourquoi?
Parce que.
Oh non, il s'est passé des trucs.
Mais non, mais c'était plan le début de course. On a eu un défilé pendant 20 tours jusqu'au premier ravitaillement, en attendant de voir si les mecs avaient. Les mecs, ils étaient en mode économie pour économiser les pneus. Ils ont quasiment tous ravitaillé au même moment.
Il y a eu Hülkenberg qui a tenté un truc.
Ouais, mais globalement,
ça se bataillait.
Globalement, on s'est quand même fait super chier pendant cette course.
Alors,
je suis d'accord. Effectivement, moi, ce que j'ai aimé, d'ailleurs, je l'ai mis sur le Twitter du SAV. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il y ait des écarts très très petits.
Et qu'il y avait les écarts ont été très faibles.
Et qu'il y avait des petits groupes. Il y avait le petit groupe devant de Vettel à Hamilton qui était en 5-8 secondes. Il y avait un groupe derrière, et ça pendant toute la course, enfin jusqu'au problème de Vettel. Et après il y avait un groupe derrière, il y avait Rosberg qui était tout seul. Puis après il y avait Schumacher, Button, Weber qui était dans un autre groupe derrière. Donc ça j'ai bien aimé le côté écart qui avait aussi un côté trépidant pendant la course. Mais après, je dirais heureusement qu'il y a eu Kubica qui a doublé une Lotus à un moment donné ou je sais plus quoi, parce qu'on s'est quand même un petit peu fait chier.
Non, il y a eu des déplacements de la Rosa et Kobayashi. Non, il y a eu des déplacements quand même. Bon, d'accord.
Non, mais moi, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, ton souvenir de ces courses-là, en 93, c'est ça ? 94 ?
93.
C'était quand même vachement mieux.
C'était comment à l'époque ? Parce que nous, c'est ça le problème, c'est que on a du mal à situer, en fait.
C'était avec Senna et Alesi.
Oui, mais est-ce que c'était...
Ah, mais je plaisante pas, en plus. ils en ont animé quelques-unes, des courses.
Ouais.
Mon souvenir, c'était quand même plus animé. Non, mais je pense que globalement, il y a, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il faut pas s'inquiéter, c'est Bahreïn aussi.
Oui, oui.
Donc, je pense que, ça promet des belles courses. Ce changement de réglementation promet des belles choses pour l'avenir. Je pense qu'effectivement, toutes les écuries étaient un peu, à surveiller ce que faisait le voisin, à pas prendre de risques, ouais, etc. Parce que c'est au début de saison qu'on peut marquer des gros points aussi. Donc, ils ont tous été sur des choix assez conservateurs et techniquement et stratégiquement peu risqués. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu non plus... Le seul qui aurait pu animer un peu plus, c'est Sutil, puisqu'il avait fait le choix de partir en dur.
Ouais.
Il s'est qualifié avec des pneus durs. Et... Malheureusement, le premier tour lui a été un peu fatal, donc ouais, sa stratégie l'a un peu flingué. Mais sinon, il aurait pu animer un peu plus. Et je pense qu'on peut avoir ce type de choses dans les prochaines courses. Moi, le seul truc que je reproche, c'est justement que les qualifs, du moins le début de la course, se fassent avec les pneus des qualifs. Ça, je trouve ça
dommage.
Ouais,
mais non. Mais justement, comme tu dis, toi, ce qui était intéressant, justement, ce qui aurait pu dynamiter la course, c'était Sutil qui parte avec des durs en 9e ou 10e place. Il aurait pu dynamiter la course. Moi, c'est justement ce que je trouvais, c'est justement, moi, de mon point de vue, ce qui va peut-être sauver un peu l'enjeu, c'est justement de devoir, négocier, cette nouvelle donne qui est d'avoir des pneus usagés et pour les poleman, enfin, pour ceux qui sont devant tendre, qui vont les obliger à sans doute être plus prudent,
ouais,
et voilà, et obliger donc ceux derrière à, là je pense que tout le monde a pris des temps par sécurité, comme tu dis. Moi je pense honnêtement que ça a été vraiment un grand prix de contrôle. D'ailleurs on le voit avec Ferrari qui est resté derrière. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'est que Ferrari sont tous les deux restés derrière Vettel, et dès que Vettel avait un problème, alors là ils ont commencé à bombarder des temps. Ils se sont montrés très rapides, peut-être même plus rapides que ce qu'on pouvait prédire quelques tours avant. Et donc je pense que Ferrari, ils étaient peut-être même dans une position d'attente, de se dire d'abord on va vérifier la consommation, et puis finalement 2 et 3 c'est pas un mauvais résultat pour un premier Grand Prix, la course est longue. Et c'est vrai que moi ça me laisse espérer quand même pour l'Australie quelque chose d'intéressant. Mais moi j'aime bien cette réglementation pour les pneus, parce que justement elle peut aussi remettre du piquant et voilà.
Oui, c'est vrai que s'ils avaient le droit de changer, ils auraient tous mis des durs au départ. Donc effectivement, ouais, tout le monde aurait été sur la même, voilà, stratégie.
Et je pense que là, en fait, tout le monde a pris des tendres, sauf Sutil qui a fait un pari. Et c'est vrai que je pense que dans les prochaines courses, seulement les 4 ou 5 pilotes qui peuvent jouer la pole vont partir en tendre. Et ceux qui vont se dire, bon, moi, la pole, c'est pas pour moi, autant que je parte 6 ou 7e et que je trace derrière avec des durs qui vont me permettre de faire un relais 7-8 tours plus long, et vraiment, là, pour le coup, jouer un coup stratégique et finir en tendre.
Sans doute, ouais, sans doute. Mais c'est un test grandeur nature, ils ont jamais connu ces températures de piste, ni d'air. Ils étaient dans l'inconnu, on dit qu'HRT était dans l'inconnu, mais je crois qu'ils y étaient tous, hein. Alors un peu moins qu'HRT, mais...
Bah, forcément.
Surtout que si on revient un peu sur les essais, il y avait finalement, on est sorti des essais hivernaux comme on y est entré, c'est-à-dire avec aucune certitude, en disant bêtement, oui, il y a 4 équipes devant, Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull. Bah oui, mais enfin ça, avant les essais, on l'avait tous deviné, donc...
Est-ce qu'on a plus de certitude maintenant ?
Non, en plus l'Australie, c'est pas forcément un circuit typique.
Bah ça tombe bien, on était à Bahreïn.
Voilà. Ouais.
Non, j'ai pas compris ta phrase. J'ai compris. Non,
tu parlais de piste typique, du fait qu'on n'avait pas vraiment encore de hiérarchie.
Oui.
Donc je rajoutais qu'en Australie, la piste étant par essence pas la plus typique,
on l'aura toujours pas, quoi.
Voilà, on l'aura toujours pas.
D'accord, ok.
Donc, la qualif, on va parler de la pole, celle de Vettel, la sixième de sa carrière, qui est aussi la sixième de Red Bull, et la 161e pour Renault en tant que motoriste, à une moyenne de 198,740 km/h.
Il n'a jamais fait de pole, Weber.
Alors, si,
sur Jaguar.
Oui.
Sur Jaguar?
Oui.
Oh la vache.
En Malaisie.
Et non, puis Vettel, de toute façon, il n'a pas fait une sur Toro Rosso, à Monza.
Ah oui, d'accord. Ah, oui, ok. Non, oui, j'avais pas.
Pareil.
Oui. C'est le même chiffre, mais
c'est pas les mêmes. Ouais, enfin, c'est tout à fait.
Enfin, Vettel doit faire 90% des qualifs de Red Bull. Hein.
Ouais, voilà. Ça m'étonnait qu'en fait Weber n'ait pas fait de qualif avec Red Bull.
Donc on notera juste pas la place du con non plus, mais la place du malheureux, hein, celui qui, on va dire, oui, reste avec les nouvelles équipes.
Oui, la place du con. Hein. La place du con.
Mais non.
Tout le monde sait très bien. Non, mais c'était d'ailleurs criant en Q1 samedi, c'est que toutes les grosses équipes sont sorties que 2 minutes avant la fin sur une séance de 20 minutes, oui, en disant même en mettant un coude à la portière, on va se qualifier en Q2. Et c'est vrai.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Et c'est vrai que malheureusement, c'est Albert Suari, je crois, qui.
C'est Albert Suari.
Qui saute en Q1. C'est vrai que malheureusement, cette saison, à chaque fois, il y en aura un qui aura l'air ridicule.
Non, je pense qu'encore, du moins les choses notables quand même, si on compare les équipiers, c'est Massa devant Alonso, Rosberg devant Schumi, Button derrière Hamilton. Ouais. Voilà, si on regarde les grosses écuries, et puis bien sûr Vettel devant Weber, quoi. Donc,
déjà le top 8 aux 8 premières places.
Oui, donc quand même, petite surprise chez Ferrari et chez Mercedes.
Ah oui.
Ouais, mais c'est peut-être aussi parce que justement ils ont les duos peut-être les plus homogènes. Là où on sait très bien que chez Red Bull, faut être honnête, c'est Vettel qui domine, et là où on sait que pour le moment, en tout cas, chez McLaren, la balance penche normalement vers Lewis qui est installé depuis 3 saisons, là où Button fait qu'arriver.
Ah, puis on peut pas dire qu'on a eu un grand Button ce week-end.
On verra s'il est dans le classement.
Donc, avant d'aller sur le classement, avant d'aller sur aujourd'hui...
Ah, je crains le pire. Une nouvelle rubrique.
Une nouvelle rubrique.
Oh. C'est quoi?
Le mec est même pas au courant.
T'es pas
bah
au courant?
Bah non, je suis pas au courant. C'est quoi?
Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire après les qualifs? Oh, je sais pas, peut-être la rubrique historique d'Enzo.
Ah bon? Ah, pardon, c'était là. Non, la question historique, en fait, c'est plusieurs questions. Il y en a qui avaient un chiffre et maintenant qui ont plein de dates. Et ben moi, j'ai plein de questions historiques, voilà. Non, mais en fait, c'est pas une
question... Ah non, en fait, sérieusement, je me fais humilier à l'éphéméride, je vais me faire humilier à la question historique, je passe vraiment pour un con dans cette émission.
Pas plus qu'avant. Non, en fait, c'est une question, dis-moi, c'est une rubrique historique, mais ce qui est pas... Bon, il va y avoir des petites questions, mais c'est juste pour revenir sur un peu l'histoire de la F1 et cultiver un peu nos auditeurs et certains d'entre nous.
J'attendais à ce qu'on sorte ça.
Donc, en fait, c'est une question qui est liée aux nouvelles écuries. Alors, bon, on va fêter les 60 ans de la F1 pour s'adresser quand même aux plus jeunes d'entre nous et de moi aussi. On va se centrer sur les 20 dernières années.
Ah, il y a du progrès, hein. Moi, ma rubrique, elle est sur les 6 derniers siècles.
Eh ben oui. Et donc, nous avions 3 nouvelles écuries cette année et donc 12 équipes au total cette année. Et une question, quelle est la dernière année où on en a eu autant? À peu près.
97?
Alors 97, c'est une demi-bonne réponse pour Yannick.
Yes.
Ouais. Alors je dis demi, pourquoi? Parce que en fait il y avait 12 équipes, mais à ce moment-là il y en avait 13 cette année, quoi. Parce que on avait eu SF1, mais en 97 il y avait Lola aussi qui s'inscrit, mais qui a jamais participé à aucune.
D'accord.
Donc ça remonte à un petit peu plus loin.
94.
Et non, 95. Il y en avait
95.
Il y en avait 14.
Wouh.
Donc bonne année, notamment la dernière, c'était la dernière année de Lotus. On avait Simtek, on avait Pacific, on avait Larousse, on a fait Footwork.
Et on trouve HRT con comme nom.
et on avait Ligier également encore à l'époque.
Oui.
C'était la première partie. Ensuite, on a eu une nouvelle écurie cette année, mais qui n'en était pas une, qui était Mercedes, qui l'an dernier s'appelait Brown Grand Prix, et qui en 2008 s'appelait Honda.
Oui.
Bah
oui.
Et quelle est la dernière? Ouais, mais ça fait plus longtemps. Et avant, ouais. Et avant encore autre chose. On verra plus tard. Et quelle est la dernière équipe qui a avoir changé autant de noms?
Force India.
Force India, oui.
Qui était?
Bah, qui était
donc Jordan, Midland
et Spyker.
Spyker et
dans quel ordre alors?
Dans l'ordre.
Jordan, Midland, Spyker, Force India.
Bien joué.
Ouais, je me rappelle, j'ai écrit un superbe texte qui a d'ailleurs signifié notre première collaboration d'ailleurs sur le rachat de Spyker par Vijay Mallya, nouveau propriétaire de Force India.
Tout à fait. Jordan 2005, Midland 2006, Spyker 2007, Force India 2008. Et sur ces, on continue sur ces 30 dernières années.
Oh non, t'as combien?
Pardon, ces 20 dernières années.
Ah, j'ai peur.
Combien d'équipes ont totalement disparu? Alors, ce que je veux dire, c'est totalement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été rachetés par la suite pour servir de base à un nouveau projet.
Ah, d'accord.
Peut compter Toyota? Ouais, voilà.
Ah, bah, bien sûr. Je vous propose même d'essayer de les nommer au fur et à mesure de façon chronologique.
Super Aguri?
Toyota en 2009, Super Aguri en 2008.
Tout à fait. Jaguar.
Pas Arrows, enfin.
Arrows 2003, bien joué.
Ouais.
Y a pas eu Jaguar?
Non.
C'est devenu quoi, Jaguar?
C'est Red Bull. C'est Red Bull.
Ah oui, c'est Red Bull, c'est vrai. Stewart?
Bah non.
Ah bah oui, non, Stewart, je suis con.
C'est devenu Jaguar.
Il est en train de me flinguer ma dernière question. En même temps qu'Arrows ou un tout petit peu avant qu'Arrows. Alors Arrows, c'est un peu faux,
oui,
puisque Arrows a été les Arrows de Super Aguri a
racheté
les monoplaces.
Prost.
Il y a Prost en 2001.
Ah oui, c'est vrai.
Alors je vais vous aider parce qu'après ça remonte loin. On a Lola, qui devait venir en 97,
ouais, avec la Mastercard,
pas venu. Voilà, mais qui était là en 93, qui a disparu. En 96, c'était la dernière année de Footwork et de Forti.
Ouais.
Larousse Pacifique, Simtek en 95, Lotus en 94. En 92, Andrea Moda, qui n'a jamais parcouru en une seule course.
Ah, ça doit rappeler quelqu'un, ça.
Voilà. Autre écurie célèbre, Brabham, qui a disparu en
95. Ah ouais.
Dallara, qui a fusionné avec Minardi. Oh. Puisque Minardi avait plutôt la compétence technique, et le patron de Dallara, de mémoire, avait pas mal de plus des forces commerciales, donc ils ont un peu fusionné.
C'est rigolo parce que maintenant c'est l'inverse avec HRT qui a la compétence technique de Dallara et
ouais.
Non, ils ont pas d'expertise commerciale.
En 92, il y avait Fond Métal et March anciennement.
Ah oui.
Layton House.
Oui.
Il fallait que je le passe.
Ah, je l'avais celle-là.
En 91, on a AGS sur lesquels vous pouvez vous offrir un stage de pilotage en F1.
C'est vrai.
Maintenant.
C'est vrai, oui.
Et Colony. Et puis en 90, on a Eurobrun, Life, Monteverdi, Onyx et Ocela.
Ouh la vache. Pourquoi ça a autant sauté en 90?
En fait, c'était vraiment des petites écuries en 90, et notamment des écuries qui avaient une seule voiture.
D'accord.
Puisque c'était autorisé à l'époque.
Et d'ailleurs, la situation actuelle avec les nouvelles équipes, certains ont dit que ça rappelait cette période des années 90,
ouais,
avec toutes ces petites équipes qui n'avaient pas forcément le niveau, où il y avait des préqualifications.
Tout à fait, il y avait des préqualifications le vendredi pour pouvoir participer au qualif. C'était tôt le matin, c'était style à 8h du mat, les pilotes devaient se lever aux aurores.
Ils avaient la tête
dans les qualifs. Complètement. Et voilà. Bon, et puis vous avez répondu à moitié à la question, et en fait, je voulais qu'on remonte dans l'origine des équipes actuelles. Donc Mercedes, ça vient de quoi?
Bah, c'était de Brown, Honda,
après,
voilà. Barr
et
Tyrrell.
Voilà, c'est cela même.
Ouais,
et Red Bull. Et Red Bull, vous
l'avez c'était Jaguar. Tout
à c'était Jaguar et Stewart après. Voilà, c'était tout.
Des questions bien intéressantes. Donc, désormais, on va passer au cœur de l'émission. Ce que nous attendons tous, ce que vous attendez tous.
Le top 8!
Bah non, pas le top 8.
Top... M'en fous, le top 8!
Oui, mais c'est le top 10 quand même! Oui, je sais, t'aimes pas le nouveau classement, mais c'est le top 10 quand même! Voilà. Top 10 qui change un peu. C'est Evolution, mais pas la Revolution.
Voilà. Voilà.
Puisque, en plus de nos trois votes, ce qui compte le plus, bien évidemment.
Faut pas déconner non plus. Hein,
on vous rajoute, vous, le vote des auditeurs. Alors, on vous...
Moi, ils voulaient pas de moi, Shinji et Dino. Hein. Il a fallu que j'insiste pour venir.
On vous rajoute à vous tous, parce que on dirait pas comme ça, mais vous êtes quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à avoir voté. Que 3, 4, 9, ça serait un peu la loose. Non, on va faire un classement des auditeurs, en additionnant classiquement. Et donc cette note, un peu la moyenne auditeur, le vote des auditeurs, eh bien, servira de quatrième note pour constituer notre super classement qu'il est beau.
Wow. Par contre, s'ils nous plaisent pas leur vote, on s'autorise le droit de le supprimer.
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Vous remarquerez, chers auditeurs, que moi, je ne suis pas impliqué dans cette histoire.
Notre top 10, avec, pour la dixième place, une situation telle que les amis Yannick. Puisque nous avons 3 pilotes ex aequo à la 10ème place.
On va avoir un 11ème et un 12ème.
Alors, je vais pas vous sortir les trucs compliqués comme vous dit Yannick, machin et tout. Non. Il y a 3 pilotes ex aequo à la 10ème place.
Tout à fait.
Ouais, et vous avez les mémoires longues quand même.
Voilà.
Hein, merde.
Comment tu l'aurais dit toi Yannick?
Non, arrête, on va y passer de 20 minutes. Oh. Donc, son ex aequo, Kovalainen. Ouais. Sutil et Barry
Kovalainen, il est encore en F1.
Oui, il est encore en F1. Tu as encore un traumatisme lié à ta séquestration, Enzo.
Non, lié à la couleur de son casque.
C'est vrai. Donc, 3 ex aequo.
Il y en a qu'un que je soutiens là-dedans, c'est Barrichello. Alors,
est-ce qu'on leur donne un point, est-ce qu'on leur donne un tiers de point, ou est-ce qu'on donne qu'un point à Barrichello, vu que c'est quand même lui qui s'est le mieux classé des 3?
Ah, bah, c'est celui qui s'est le mieux classé des 3.
Oui.
Ah, non.
Bah, si, quand même,
ah oui,
c'est ce qui est plus logique.
Non, mais
ça dépend. Les auditeurs, ils ont voté pour quoi?
Alors, les auditeurs ont mis Kovalainen devant Barrichello et devant Sutil.
Donc, on dégage Kovalainen déjà.
Kovalainen qui est 11ème hein, pour les auditeurs. Kovalainen est 11ème. Moi, je l'ai mis 10ème.
Oui.
Dino l'a mis 10ème. C'est ce qu'il a fait. Remonter,
Et moi je l'ai mis 9ème.
Ah, pas Kovalainen.
Non, Barrichello.
Ah, Barrichello, oui, tu l'as mis 9ème.
Eh ben, place au vieux un peu.
Ah non.
moi j'ai envie de dire Barrichello. Voilà, parce que place au vieux et puis.
Ah non, mais attendez. Je voudrais me défendre à l'injustice. Parce que l'année dernière je disais, bah oui, non mais, bon, s'il y en a un, s'il y en a des ex-aequo, on discute et on me faisait chier en me disant, oh non, on n'en prend qu'un.
Franchement, moi je dis tout le monde sauf Sutil. Parce que j'ai une dent sur un Sutil de l'an dernier. Ah non, c'était peut-être Buemi qui nous a fait chier pendant je sais pas combien de temps.
Oui, c'est Buemi, donc
bon, c'est pareil.
Non, mais Barrichello.
Barrichello, il a marqué des points, allez.
Voilà.
C'est une course. Il part onzième et il marque des points. Ouais.
Ah, Sutil, il part combien et puis il en marque pas.
Il part neuvième, il fait un tête à queue parce qu'il est,
parce qu'il est pas doué.
Il est aveuglé par le trop plein de Weber.
Sutil est parti dixième.
Ah oui, mais il est aveuglé par le trop plein de Weber. Moi, je suis désolé, je milite pour Sutil. Après, votez pour Barrichello, vous aurez la majorité, mais c'est pas grave.
Bon, on a la majorité, voilà.
Voilà, majorité. Ouais. 2-4.
Ce qui est pris n'est plus à prendre.
Contre 2. Cindy.
C'est un scandale.
Oh, hein, le coup de blémi de l'an dernier. Voilà.
Mais vous n'avez pas compris, blémi, tout ce que je voulais faire, c'était réparer une erreur.
Eh ben nous aussi, on veut réparer l'erreur qu'il n'ait pas été champion du monde l'an dernier.
Il a eu plein de points l'an dernier qu'il ne méritait pas. Oh là là. Donc, il fait rien. Alors, non mais sérieux les mecs, il fait rien Barrichello. En même temps,
on sait bien que sur un top 10, les gars qui sont 9e, 10e, en règle générale, ils ont pas fait des trucs extraordinaires.
Voilà, tout à fait. Ouais, mais c'est Barrichello, merde les mecs.
Non, bah alors soyons très simples, on met un point à chacun et puis basta quoi. Allez, ben voilà. Soyons grands seigneurs.
Voilà. On s'en est une règle pour toute l'année.
Voilà.
Voilà.
Allez.
Il suffira que je mette un pilote 9e et vous serez niqués, les mecs.
C'est cadeau. J'aurais dû mettre Senna 9e. Merde.
Eh ouais. Donc, on l'a dit, Barrichello, il a pas fait grand chose.
Bah, il termine dans les points. Il est toujours là, quoi.
C'est vrai.
Il est toujours là, quoi. Non, mais sérieux, les mecs.
Alors, attends.
Mais je vais rien dire parce que.
Attends. Il y a les 4 top teams qui monopolisent les 8 premières places. Après, t'as les Renault, t'as les Sauber. Tout ça, ça pouvait être devant les Williams. Ben non, il est là, Barrichello.
Oui, non, mais voilà. Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'attarder sur Barrichello.
Voilà, on s'attarde ni sur Barrichello, ni sur Sutil, ni sur
Kovalainen. Oh non, on a rien dit sur Sutil et Kovalainen.
Eh ben non, on dit rien. Allez. 9e.
Mais non, Kovalainen, faut en parler. Il a été récompensé par les
Kovalainen. Globalement, il a été récompensé parce que c'est Lotus, que c'est la seule nouvelle équipe à avoir réussi à ramener une voiture à la fin.
Pas d'accord. Il y a eu à un moment donné une belle. C'est peut-être une bagarre juste entre une Virgin et une Lotus. Ouais. Il me semble que c'était avec Kovalainen.
Damien a mis Kovalainen 4e.
Oh non, mais faut arrêter. Ah oui, mais c'est Damien, attends.
Je t'écoutera.
Je le connais suffisamment bien pour savoir.
Normalement, il est souvent 9e, 10e place. Hein. Pas, rarement plus haut. Faut pas exagérer non plus.
Mais de toute façon, moi, cette année, j'ai décidé automatiquement le 10e. Ça sera, pour moi, le meilleur. Bien sûr, sauf si j'en mets un au-dessus. Mais ça sera automatiquement le meilleur des 6 nouvelles voitures.
Eh ben, moi, j'ai mis Senna et son coéquipier. Je sais même plus son nom. Shadok.
Shadok, hein.
J'estimais qu'il fallait avoir des couilles quand même pour monter dans une F1 qui a pas roulé et on sait même pas si elle va pas se désintégrer en vol, quoi.
Donc, passer à la 9e place?
Oui.
Oui? Et là, je crois qu'il va y avoir du débat.
Oh putain.
Oh non, pas Lewis.
Oh non.
Shumi?
C'est Shumi. Alors, pourquoi? Ah! Pourquoi?
Je te dirai rien.
Parce que moi, je l'ai mis 9e. Enzo, tu l'as mis 8e.
Et Dino, il l'a pas mis.
Les auditeurs l'ont mis 6e, donc ça aurait dû, sans doute, avoir une ou deux places de plus. Mais, Dino ne l'a pas mis.
Yannick.
Dino n'a pas mis Shumi.
Yannick.
Si c'est pas retourné ça.
Et j'ai crié, Shumi.
Non mais.
Tu l'as crié pourtant.
Honnêtement, je vis une période bizarre. Je me suis rendu compte que j'étais plus fan de Ferrari que de Michael.
C'est bien.
Alors que je pensais que j'étais quand même très fan de Michael. Et que c'est entre guillemets parce que j'étais fan de Michael que j'étais devenu fan de Ferrari. Mais non. Je suis plus fan de Ferrari que de Michael.
Et Shumi, vraiment des avis très contrastés. Hein. Classe Bertaio l'a mis 3e, par exemple. Beaucoup l'ont mis plutôt au milieu.
Oui, mais pourquoi on le met 3e? On met 3e parce qu'il a pas roulé depuis 3 ans et que...
Oui.
Voilà, après en même temps, il est aussi affûté comme un boulet de canon. Ça fait quand même des il a pas arrêté l'entraînement. Ça fait quand même quelques mois qu'il se prépare. Il a fait des bons essais. Donc moi personnellement j'ai pas grand chose à... c'est surtout pour ça que je l'ai pas mis, c'est que j'ai pas grand chose à dire dessus.
Il a le mérite quand même d'être de pas avoir perdu quand même énormément quoi.
Tu prends un
Badoer par exemple l'an dernier. Wow. Bon c'est un mauvais exemple.
Non mais c'est vrai que ce que tu dis c'est que en plus il a pas perdu, d'autant que la Mercedes semble dans la première hiérarchie qu'on peut faire, semble quand même des 4 voitures sans doute peut-être la moins performante actuellement. Même si ça reste toujours très fragile de faire ce genre de classement dès le premier Grand Prix, mais pour le moment la Mercedes a pas montré que c'était un foudre de guerre ou quoi que ce soit.
Non, il mérite amplement sa place à ce niveau-là, oui.
Bon, ne pas le mettre quand même.
Ouais, quand même. Hein.
Yannick, quand même.
Quand même.
Mais non, mais moi je note, j'ai des trucs à dire sur tous ceux que j'ai notés. Voilà. Ouais. Sur Shumi, j'avais rien à dire. Mais après, c'est vrai que ça me fait plaisir qu'il soit revenu, mais voilà, il faudrait qu'il m'en montre plus pour me reconquérir.
Oh, c'est beau.
Oh.
Voilà. Tu sais, c'est comme une vieille fiancée que t'as larguée, voilà, et que t'as envie de la reprendre après. Bah, si tu veux qu'elle te reprenne, bah, faut que tu fasses des efforts, faut que t'achètes des fleurs, des chocolats, etc.
Allez, à la 8e place, Lewis Hamilton. Alors moi, je l'ai mis 6e, Yannick l'a mis 6e, Enzo l'a mis 7e, et en fait, c'est les auditeurs qui plombent Hamilton, qui l'ont classé 9e, globalement.
Non, mais faut quand même dire, c'est qu'on a des auditeurs qui sont quand même très anti-Hamilton.
Oui. Alors, mais ça.
On veut pas dire que on l'est pas, mais.
Disons que nous, déjà, on le note pas forcément super bien, et bon, voilà, quoi. Il le plombe, quoi.
Moi, je le note à sa, mais voilà, c'est pareil. Même s'il a pas été mauvais, qu'il fait une course solide. Je trouve que sur cette course-là, moi, en tout cas, dans ma hiérarchie, il y a des pilotes étonnants que j'ai préféré mettre devant Hamilton.
Et puis en plus, on s'attendait peut-être beaucoup mieux de la McLaren après l'affaire de l'aileron.
Quand même. Moi, je te l'avais dit pendant l'émission de pré-saison. Hein, j'avais mis un duel Hamilton-Alonso parce que je pensais effectivement que cet aileron qui donne 10 km/h de plus sur un circuit comme Bahreïn qui a quand même une 4 grosses lignes droites, théoriquement, ça aurait quand même dû passer. Et apparemment, il bouffait beaucoup ses pneus, donc.
D'ailleurs, ça serait sans doute lié à ça que McLaren demande à ce qu'il y ait 2 arrêts obligatoires. C'est pas pour relever l'intérêt des courses, hein, c'est juste parce qu'apparemment ils bouffent leurs pneus. Enzo, un mot sur Hamilton ?
Non, on a tout dit. Il n'y a rien à dire.
C'est vrai, j'ai oublié, c'est une course chiante, donc on n'a rien à dire.
Ah non, non,
ouais, voilà. Du tout,
ce n'était pas une course chiante, mais Hamilton, il a rien, mis à part qu'il nous a montré bien qu'en faisant une course insipide qu'il a étouffé quand même Button.
Ah oui. Alors d'ailleurs, faut noter un truc.
Il n'y a pas Button dans le top 10.
Ah non, mais attention, Button n'a été cité qu'une fois.
Oh la vache. Parmi les 12 personnes qu'on cite.
Voilà, sur les 12 personnes citées, Button n'a été cité qu'une fois par Maël à la 10e place.
Mais c'est pareil dans le Fantasy F1, il n'y a que moi qui l'ai pris, personne d'autre l'a pris.
C'est monstrueux.
Et bon, on voit pourquoi t'es pas en tête.
Ah bah c'est bon.
À la 7e place, une équipe, enfin, un pilote, mais surtout une équipe qu'on attendait pas franchement à ce niveau-là, enfin en tout cas.
Renault.
Cette vitesse-là, c'est Renault.
Petrov.
Ah non, c'est l'autre. C'est Kubica.
Ah, je l'ai oublié, moi.
En effet, tu as oublié Kubica.
Mais ça, c'était une spéciale dédicace à mon ami.
Les auditeurs.
Qui voulait pas que je sois libéré.
Les auditeurs.
Oui, parce que je transmets vos mails, chers auditeurs.
Yannick l'a carrément mis 3e, et moi je l'ai mis 7e.
Non.
Ah ouais, carrément. Ah ouais, non mais je suis désolé, mais...
Mais qu'est-ce qu'il a fait ?
Il a, à un moment donné, il a fait un dépassement, mais un truc d'une... Alors c'est contre une petite écurie, hein, c'est
la
pas...
La fierté ?
Oui, je sais plus, enfin... Oui, non mais... C'est surtout, c'est que la manière dont c'était fait... Moi, c'est un peu ce qui m'inquiétait avec Renault. C'est surtout l'impression par rapport à l'an dernier que j'avais de Kubica, qui était un peu plomb-plomb et qui arrêtait de se battre face à l'adversité. Là, cette année, j'avais un peu cette inquiétude en voyant la Renault, qui avait pas l'air trop bonne. Je me disais, est-ce que Kubica, finalement, est vraiment l'homme qui va permettre à Renault de se relancer, qui va se sortir les doigts du cul pour aller chercher une ou deux places de plus quand il le faudra. Tout comme Sutil, il voit sa course gâchée par le trop-plein de Weber au départ, dans le premier virage. Il se retrouve loin derrière, il remonte. Et pour moi, dans cette course, c'est l'un des seuls qui a vraiment attaqué, qui a vraiment donné tout ce qu'il pouvait donner.
Quand j'entends ton enthousiasme sur Kubica, j'aimerais juste te rappeler sa première course l'an dernier en Australie et le reste de sa saison.
je
serais inquiet.
Oui, mais je ne le soutiens pas. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un bon comportement dans l'adversité.
En tout cas, c'est vrai qu'Yannick, c'est toi qui l'as mis le plus haut. On note juste Steph Corr qui l'a mis 4e. Sinon, souvent, c'est un peu plus bas quand même.
Bah oui, hors classement.
Toi, oui, carrément hors classement.
En fait, il y a un pilote que j'ai oublié, mais que je regrette, mais on verra s'il est dedans.
Ah, c'est Senna que t'as oublié, toi, non?
Non, il l'a mis. Ah, il l'a mis sur une demi-place, sur un strapontin.
Bah, c'est un petit chez Senna pour l'instant.
Donc, après Kubica à la 7ème place, à la 6ème,
Petrov.
Nous avons aussi une Renault, et nous avons Petrov. Petrov que j'ai mis 8ème, Yannick, tu l'as mis 7ème, Enzo, tu l'as mis 5ème, et les auditeurs l'ont mis 7ème. Donc, un niveau quand même moyen,
assez bon. Moins,
voilà, assez bon, c'est équivalent. C'est, et là je reviens sur...
Surtout pour un pilote qui a fait que la moitié de la course, quoi. C'est quand même...
Ah ouais, il a fait une demi-course, malheureusement. On a vu son bras de suspension pété, c'était assez drôle.
Ouais.
Bah, ah, c'est pété. Puis il restait ça un petit peu tour. Surtout... Ah, c'est cassé, tiens.
Et surtout les commentateurs, ils disaient, et je pouvais repartir. Ah bah non, quand ça bouge comme ça, généralement, il repart pas. Hein.
Petrov, vraiment de tout classement, et là j'en reviens aux fameuses questions que Steve Korn nous a envoyées, c'est quand même des nouveaux pilotes, celui qui a, alors, sur une demi-course, mais c'est celui qui est le mieux classé, celui qui a quand même été le plus impressionnant, on peut le dire.
Oui.
En plus, sur une Renault qu'on n'attendait pas forcément avant ce week-end. Faut bien le dire aussi.
Oui, mais personnellement, je lancerai une question autour justement des deux pilotes Renault. Là, on voit, enfin moi, par rapport à ce que j'ai dit sur Kubica, qu'il s'était vraiment montré en course, et là, par rapport à Petrov, qui se montre aussi. Est-ce que contrairement aux autres écuries qui ont peut-être gardé un peu de retenue sur la pédale, est-ce que les pilotes Renault ne se sont pas donnés à fond? Et dans ce cas-là, est-ce que la performance de Petrov est pas un petit peu surévaluée du fait que lui s'étant donné à fond, il a paru beaucoup plus dynamique et beaucoup plus énergique que les autres, alors que les autres en fait étaient juste en train de gérer la course pour voir faire une grande séance d'essais collective.
Est-ce que c'est justement pas une raison de le saluer? Justement, les autres ont été attentistes. Eux, ils ont osé, ils ont attaqué. C'est ce qu'on demande aux pilotes de F1.
Peut-être. Non, mais peut-être. Mais la Renault est venue aussi avec des évolutions par rapport aux essais qu'il y avait, du moins beaucoup d'évolutions parce que toutes les écuries en avaient,
oui.
Mais eux ils en avaient beaucoup visiblement.
Bah ils partent surtout de très bas et
oui, c'est plus facile de progresser.
Donc belle, quand même belle course des Renault.
Globalement oui. Enfin. Oui. Et alors je dirais même plus, moi qui n'aimais pas du tout la livrée, je trouvais qu'effectivement on les repère bien et que dans dans le feu de l'action c'est assez joli. Même si la livrée est horrible, de mon point de vue.
Et puis voir Lada.
Non, ah, c'est beau. Ah, je l'ai pas vu qu'il y avait marqué Lada.
Il y a Lada, ouais. C'est marqué.
Sur les déflecteurs latéraux.
Cinquième place, le deuxième pilote Mercedes, Nico Rosberg. Alors moi, je l'ai mis quatrième, comme Enzo. Yannick, où est-ce que... Oh, tu as été sévère avec
Rosberg. Il a descendu encore.
Tu l'as mis huitième. Quant aux auditeurs, ils l'ont mis cinquième. Donc plus ou moins comme moi et Enzo.
Le pire, c'est que j'ai mis huitième derrière Hamilton et je me demande même pourquoi. Parce qu'il n'a pas fini devant, voilà, c'est ça en fait.
Ah. Il a fait ce que tout le monde espérait de lui. C'est être devant son coéquipier.
Et il n'y a que la moitié des pilotes qui peuvent se vanter de ça.
Non, mais c'est il fait une belle course. Maintenant, c'est pareil que pour Hamilton. Je le mets bas parce que pour moi, il y a eu d'autres performances qui m'ont sauté aux yeux. Mais c'est vrai qu'il fait une très belle course sur la Mercedes, surtout comparativement à Michael.
Oui,
je pense que c'est surtout ça. Hein. C'est pas spécialement la qualité de la course globale. C'est le fait que voilà, pour sa première course, il a fini devant Schumi. Il a été globalement, on a senti qu'il était mieux.
Attends, c'est pas nouveau, ça fait 3 ans qu'il finit devant Schumi.
Non, puis même ça, c'est pareil. Moi, il y a certains commentaires, pas des auditeurs, mais notamment de personnes des médias, etc., qui tirent un peu vite des conclusions. Je me rappelle notamment Malbranque à la fin des qualifications, quand il a vu Petrov 17e et Kubica 9e. qui s'est dit oh, bah Petrov il est pas rapide. On a vu en course qu'il était rapide. Donc faut éviter les conclusions un peu hâtives et là c'est pareil sur Rosberg tout de suite parce qu'il est devant Schumi, il est qu'une place devant à quelques secondes devant Schumi sur le résultat final. On en déduit que voilà Schumi est peut-être fini, on est déjà en train de se poser la question, est-ce que Schumi a bien fait de revenir, est-ce que Rosberg va pas être le bourreau de Schumi? Ouais. Oui, enfin Schumi il a quand même 41 ans, Rosberg il en a 24 ou 25. C'est un Grand Prix où vous avez 40 degrés à l'ombre. Les circonstances sont pas les mêmes. Voilà, Rosberg fait une belle course, mais il a aussi la jeunesse pour lui et voilà quoi. Moi je dis ça, mais j'ai pas mis Schumi dans le classement. Donc.
Oui. Bah si, d'une certaine façon c'est logique. T'as pas mis Schumi et t'as mis Rosberg très bas.
Voilà.
Ce qui est étonnant, c'est que t'aies mis Rosberg aussi bas, quoi, mais bon.
Mais ça c'est votre opinion là.
Quatrième place. Là encore, peut-on encore dire une surprise? C'est le pilote Force India.
Sutil.
Non, celui dont le nom en français est Vite Antoine.
Oui.
Nom très courant. Vite Antonio Liuzzi. Quatrième. Alors, je l'ai mis troisième. Yannick, tu l'as mis quatrième. Enzo, voilà. Tu l'as mis sixième. Et les auditeurs l'ont mis quatrième.
Et on se fout de ma gueule parce que j'ai mis Kubica 3ème et Shinji mis Liuzzi 3ème.
Oh, tu l'as mis 4ème Liuzzi, c'est pas...
Bah oui, non mais pas 3ème.
Oui mais s'il donne les points.
Oui. Non mais oui, mais... Il part de moins loin, il a eu moins de problèmes que Kubica. Non mais je fais mon emmerdeur.
Bah, surtout que tu as très bien noté Liuzzi quand même.
Ah oui, non mais voilà, c'est surtout ça, c'est bah il fait partie de avec moi je l'ai mis parce que tout simplement ça m'a semblé évident, moi j'ai fait ma liste à la fin de la course, j'ai dit voilà, quels noms me viennent tout de suite en tête et Liuzzi parmi les premiers que j'ai vus parce que d'abord on n'est pas habitué à le voir dans les points et puis parce que voilà, c'est quasiment l'un des seuls qu'on a vu faire des petites choses pendant la course.
Et c'est vrai que voilà une équipe qui risque d'être très bénéficiaire du nouveau classement, c'est Force India.
Ouais, c'est clair.
C'est Force India. Comme quoi, la cinquième place au championnat, c'est pas si bête que ça.
Bah, ils la tiennent pour l'instant.
Ah, pour l'instant, ils la tiennent. Un petit combat Force India Williams cette année.
Ah oui, avec victoire finale de Force India. Ouais. Ah, c'est des curies que j'aime bien.
Oui. Bon, ils ont livré un peu moche, mais c'est pas grave.
Ah non, mais les LED.
On arrive au podium.
Yeah.
Ouais. Et sur le podium, il y a un pilote Ferrari sur la troisième marche.
Il y en a deux, j'espère.
Non, ouais, sur la troisième marche.
Théoriquement, là, il y en a deux. Hein.
Oui, il y en a deux. Normalement,
le triplé, on l'a. Hein. C'est donc... le même que la réalité.
Oui. Donc, en troisième place, c'est le troisième de la course. Le revenant.
Felipe Aru.
Celui que... Pendant toute la course, les commentateurs n'ont pas arrêté de dire « Oui, il a manqué de perdre la vue
oui.
hein, pendant son accident. » C'est vrai qu'en Hongrie, quand il a eu son accident, on a tous pensé qu'il allait perdre la vue.
Non, mais après, oh, oui. C'est injuste. Ah. T'es méchant avec Christophe et... comment ils s'appellent les autres ouais. Jacques et Jean-Louis.
Il a juste failli perdre la vue.
Oui.
Il aurait pu la vie, la va, la vue, la veau.
C'est... Ouais... Donc Massa qui fait une bonne course. Enfin, on connaît pas forcément la hiérarchie, mais on sait déjà que la Ferrari est une bonne voiture. Même si
oui.
Il a eu quelques soucis. Enfin, il y a eu ces questions de moteur hein, qui l'a obligé de ralentir. Alonso ne les a pas eu aussi d'ailleurs.
Oui, il y a eu
déjà. Déjà, il y a eu le changement de moteur parce que les deux ont changé de moteur. Plus mais alerte moteur.
Sérieusement, est-ce que ce coup de l'alerte moteur comme par hasard à 20 tours de l'arrivée, c'était pas un genre bon les gars, on calme le jeu, c'est pas grave, deuxième, troisième, c'est pas trop mal. Parce que derrière, ils bombardent quand même.
Bah 20 tours de la fin à Bahreïn, ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait un tir. Ouais,
non, qu'ils ont la mi-course.
Ouais, mi-course.
Ouais, mais non, mais vu qu'ils sont sur un rythme super serré, est-ce qu'ils se sont pas dit voilà, on va aller dans une vu que ça a été une course d'attente, on va rester derrière et puis après tout 2-3 c'est pas trop mal. Parce que derrière, quand même, une fois qu'ils ont dépassé Vettel, ils claquent des temps et ils commencent à larguer Hamilton derrière. Donc, moi, je dis ça, je dis rien.
Peut-être, l'avenir nous le dira.
J'espère qu'il nous le
dira. J'ai envie de dire, il a pas fait une course extraordinaire, mais en même temps, tous les pilotes ont fait une course qui n'était pas extraordinaire. Donc,
je pense que comme pour Soumy, ce qu'on a salué, surtout, c'est son retour.
Oui.
Enfin, même si encore une fois,
il fait troisième, il finit troisième de la course, il y a rien d'illogique non plus.
Même si encore une fois, non, il fait deuxième de la course.
Oui, deuxième, excuse-moi. C'est
oh, vrai. S'il te plaît, oh. Double Ferrari, quand même. Mais, même si encore une fois, faut relativiser, il a quand même fait, plus de 4000 ou, que, ouais, près de 4000 kilomètres d'essai, cet hiver. Bon, il est quand même arrivé aussi, affûté, etc. Enfin, c'est pas
mais la course n'a rien à voir, quand même.
Oui.
La course n'a rien à voir.
Oui, voilà. Donc, non, mais on est bien d'accord, ça n'a rien à voir, mais globalement, il n'est pas non plus revenu, c'est pas le mec qui est revenu comme ça, c'est pas, si on fait une comparaison.
C'est pas Badoer.
C'est pas, non, mais c'est pas Loda. Ou Badoer, mais c'est pas Loda, par exemple.
Bah, Loda, il s'était entraîné aussi.
Il a manqué trois courses, seulement.
Non, mais. Sans sens où quand même Loda, il a repris la course alors qu'il souffrait encore de ses blessures.
Ah oui,
alors que là, Massa, ça fait longtemps qu'il est reconstruit même physiquement et qu'il sera en train depuis un bail et qu'il fait des courses depuis un bail.
C'est vrai.
Enfin, qu'il fait des essais et des kilomètres depuis un bail. Donc, moi, j'aurais tendance, c'est aussi pour ça, j'aurais tendance aussi à pas non plus me laisser berner par le fait qu'il revient après un accident. Peut-être que je pense que ça l'a hanté quand il a pris le départ ou un truc dans le genre, mais après...
Non, mais ça prouve qu'il a rien perdu de sa vitesse non plus.
Ah non,
ça, y a
Enzo,
pas...
Enzo Ferrari disait que en plus, un pilote perdait une demi-seconde, je crois qu'il disait une demi-seconde ou une seconde, à chaque enfant, à chaque naissance d'un enfant. Et en plus, il a été père, Massa.
Ouais, enfin, ça aurait fait une seconde.
D'ailleurs, dans iFar Racing, il dit quand j'ai le casque et tout, j'ai plus de famille.
Bah nous c'est pareil, quand on a le casque on a plus de famille.
Deuxième place. Alors deuxième place, Chorizo ou Currywurst?
Currywurst.
Bon, c'est Alonso.
C'est Alonso qui
finit deuxième. Oh putain, non, je m'en fous, je me casse de cette émission de merde, je me casse, j'en ai marre.
Faut savoir qu'il est... Alors, Alonso a été mis en tête seulement par Yannick, par Maël.
Mais c'est quoi ça Enzo
et
ça...
Par
oh Enzo.
Oui. Moi j'ai mis Baby Shumi moi en tête. Hein.
Oh. Et je retourne ma veste une deuxième fois. Une vraie crêpe en fait.
Alonso, bon, qui a fait une bonne course, qui a eu du cul, faut bien le dire.
Oui.
Non, c'est pas une question de cul. Non, mais même c'est pas une question de cul. Red Bull, ils ont qu'à être fiables. Et ça fait partie de la course, ils ont qu'à être fiables. Alonso, il a su ménager sa monture, ce qu'a peut-être pas forcément fait Vettel. Puis il a fait le boulot, quoi. Il est resté tout le temps en contact. Oh merde, je me retrouve à défendre Alonso.
Eh oui.
Tu te rappelles
Tu es ferrariste, ne l'oublie pas.
Oui, voilà.
C'est pas il y a deux ans... qu'as-tu dit il y a deux ans quand au Grand Prix de France, Raikkonen a tout détruit, ses échappements, et que Massa a dû le doubler?
Mais ça m'a fait chier pour Raikkonen parce qu'il méritait la victoire.
Et ben là, c'est
mais
pareil.
Après Massa n'a pas voilà, et puis je trouve honnêtement là que sur cette course là et même sur l'ensemble du week-end, Alonso a pas été pas trop mal, et puis c'est quand même le troisième ou quatrième pilote seulement à faire une première victoire avec Ferrari. C'est quatrième. Voilà, donc moi après c'est je comprends aussi qu'on puisse mettre Vettel, hein. Je me suis pas posé non plus pas de questions, j'ai aussi fait fonctionner le cœur avant tout dans ce truc là. Mais après, alors moi l'expression de Malbran qu'on revoit partout, Vettel vainqueur moral, non, il y a pas de vainqueur moral, il y a un vainqueur. Il y a un vainqueur, il y a un deuxième, un troisième et un quatrième.
Ah, moi dans mon classement, mais j'ai pas envoyé tout ça à Cindy, j'ai envoyé que la liste, mais moi j'ai marqué Vettel de points vainqueur moral.
Ah, mais ça m'énerve, moi, cette expression de vainqueur moral. Voilà.
Alors, j'ai une question de Steph Core. Alors, il y a la question. Lequel des nouveaux pilotes vous a le plus impressionné? Ça, on a dit, c'est Petrov, hein. Faut bien le dire.
Non.
Ah, parce que toi, il y en a un autre qui t'a le plus impressionné que Petrov?
Un petit débutant. Shumi, s'appelle, je crois.
Non mais sérieux, l'an dernier c'est moi qui lui faisais la morale parce que il était en train de virer pro Alonso beaucoup trop, et là cette année c'est l'inverse. C'est moi qui ai totalement ignoré Shumi, qui ne pense qu'à Alonso, et c'est lui qui va venir nous parler de Shumi.
Et donc Steph Corr nous demande, Alonso a mis quasiment une seconde et demie à Massa sur leur meilleur temps de course respectif. Pensez-vous qu'Alonso a pris dès ce premier Grand Prix l'ascendant sur Massa au sein de l'écurie Ferrari?
Mais il y a déjà gros débat là dans les commentaires du SAV là-dessus.
L'ascendant psychologique, c'est sans doute, voilà, c'est de gagner. Peut-être ouais. Que dans la tête de Massa, il va se dire, attends, bon, je suis chez Ferrari avec Schumacher, bon, le mec de derrière, c'est Kimi Räikkönen, il gagne sa première course. Il est champion et moi je suis marron derrière. Là, ça recommence quoi.
Pour moi, l'ascendant, il l'a pris au deuxième virage.
Ah oui,
c'est vrai, il a pris un ascendant, mais pas parce qu'il y est allé en patron quoi. Il a dit je suis là, laisse Madeleine. Hein. Après la comparaison.
Et voilà, il gagne. Bon. Là, c'est lui qui gagne.
J'ai rarement vu quand même un mec être aussi mécontent de finir deuxième de sa première course après un accident que Massa.
Ouais. Mais qui a fini deuxième en revenant après un accident?
Bah Schumacher.
Question historique. Eh ben oui, Schumacher en Malaisie puisqu'il a laissé gagner Irvine.
Ouais.
En 99. Bon, bref.
Passons au vainqueur moral du classement. Non, au vrai vainqueur du classement.
Oui, voilà, le vrai vainqueur du classement, il a gagné.
Sébastien Vettel. Alors, faut savoir que Vettel, son plus mauvais classement, c'est deuxième. Toi, Iceman R et Maël, qui ont mis Alonso et Vettel.
C'est un peu le problème du SAV et nos auditeurs, c'est qu'il y a un peu trop de pro Ferrari quand même.
Tu vois qu'il y a plus de pro Mercedes.
Non, mais du tout, mais c'est un peu dommage. Donc si vous avez des amis qui sont pro Mercedes, pro Renault, non, on en a déjà, ça suffit. Pro
Williams, tiens, on n'a pas ça.
Williams, invitez des à nous rejoindre.
Il faut pas compter sur l'équipe du SAV pour compter un pro Williams.
Invitez-les, donc on partagera nos opinions agréablement avec eux. Et ils seront accueillis agréablement. Hein, Dino.
Oui.
Alors, cette Red Bull, est-ce qu'il n'y a pas le spectre de la RB5 hein? Cette voiture RB6 qui ressemble comme, pas comme deux gouttes d'eau, mais qui ressemble beaucoup à la RB5.
Comme deux gouttes de Red Bull, tu veux dire?
Comme deux gouttes de Red Bull. Et qui, visiblement, comme la RB5, est rapide, mais pas spécialement fiable. Ça serait quand même ballot qu'ils perdent le championnat une deuxième année de suite à cause de leur fiabilité.
Je dirais même plus que la fiabilité, c'est à un moment donné aussi, moi je me suis quand même posé la question, est-ce qu'il fallait peut-être pas mieux arrêter Vettel, se dire bon c'est la première course, bon d'accord il va prendre 25 points dans la bulle, mais il y avait quand même peut-être le risque qu'il prenne finalement que 3 ou 4 points. Est-ce qu'il valait pas mieux l'arrêter, préserver son moteur, surtout éviter la casse moteur et attendre. Ou alors ils avaient la certitude que le moteur casserait pas.
Est-ce qu'on sait exactement ce que c'est comme pièce? Parce que si vraiment ça avait été le moteur, je pense qu'il l'aurait arrêté. C'est peut-être un truc à côté, non?
Mais c'est l'échappement. Mais apparemment, l'échappement aurait cassé pas sur la partie inférieure, mais sur la partie supérieure. Parce que la partie inférieure, là, ça aurait pu causer une casse du moteur.
Donc, a priori, il n'y avait pas de risque pour le moteur, donc bon.
Ouais, voilà, non, mais après, ça. On verra en fin de saison, mais en tout cas, c'est quand même pas non plus très. Il paraît qu'ils ont des échappements très développés, très complexes, et que apparemment, Adrian Newey a encore pris des risques, peut-être qui vont coûter cher à Red Bull, tout comme à une certaine époque, ça a coûté cher à McLaren. Moi, c'est un peu le risque, c'est de voir que la RB6 se transforme en MP4-21 ou MP4-22.
Ah puis là en plus pour le championnat, enfin il finit quatrième et forcément au lieu de perdre 3-4 points maintenant, Vettel a deux fois moins de points qu'Alonso.
Ouais.
Bah oui, bah comme avant quoi. Tu finis quatrième, avant c'était 5 points, ouais. Là.
Mais là 10, si tu
veux, par rapport à 10, c'est la moitié moins. Hein,
c'est démultiplié quoi.
Et puis surtout que en face ils sont quand même confrontés à Ferrari qui, même s'il y a une petite alerte parce qu'ils ont changé de moteur, mais ça on pense que c'est sans doute parce qu'ils ont changé de moteur pour garder un moteur spécifique aux essais. Chez Ferrari il y a pour le moment une fiabilité quasiment irréprochable, en tout cas lors des essais, et En course, il n'y a pas eu de gros pépin.
Non, il n'y a rien eu. Donc, au classement général du SAV, bon, bah, c'est le même que celui de la course. Normal.
Et ben voilà.
Et au classement constructeur du SAV, puisque maintenant, puisqu'on est... Eh ben ouais, Ferrari est devant avec 33 points. Devant Red Bull, 25. Renault, 14. Force India, 13. Mercedes, 12. McLaren, 4. Williams et Lotus, 1. Est-ce qu'on leur file des points?
Par contre, il y a un truc que... Un des pilotes qu'on n'a pas cité, et moi je voudrais juste... j'ai pas jugé utile de le mettre dans mon top 10. Néanmoins, je voudrais en parler.
À noter que sur les 12 votes, il y a 17 pilotes qui ont été nommés. Vas-y Enzo.
Pourquoi tu te marres, Dino?
Vas-y Enzo.
Ah non, mais moi je me rappelle l'an dernier, encore une fois, les mecs qui me disaient « Oh non, c'est bon, on parle des 8 premiers, puis on va pas se faire chier avec le 9e ou le 10e. » Et là, oui, il y a un pilote qui a pas été mentionné, j'aimerais en parler. Et
vas-y, Enzo.
Je n'en parlerai pas.
Mais non, vas-y, Enzo.
Ah non, mais je suis plus patron, moi, je fais que...
Je voudrais juste saluer la performance par rapport à son coéquipier, encore une fois, de Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa qui était dans les mêmes situations que Luca Badoer, c'est-à-dire en Grand Prix, ça faisait quelques années qu'on l'avait pas vu quand même, face à un Kobayashi dont on a dit moi le premier, le plus grand bien pour les deux courses qu'il a fait l'an dernier, eh bien je trouve qu'il s'en est tiré plutôt convenablement face à son coéquipier. Voilà, c'est tout. Et j'ai fait rapide. Prends-en de la graine, Dino.
Alors... Rapidement, sur les questions de Steph Core.
Oh, il est chiant avec ces questions Steph Core, là.
Une question, une réponse vraie. Suis-je juste un aigri de plus en pensant que la liberté donnée aux écuries sur l'aérodynamisme des F1 va réduire encore le spectacle? Enzo.
J'ai pas compris, j'ai dit non avant, j'ai pas compris la question.
Donc, je répète, suis-je un aigri de plus en pensant que la liberté donnée aux écuries sur l'aérodynamisme des F1 va réduire encore le spectacle? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il parle de liberté donnée aux sur les roues F1.
Mais oui, c'est le paradoxe de la FIA qui, dans un règlement, dit qu'ils vont quasiment accorder aucune liberté ou peu. Pour un peu discuter avec Steph Core, je sais qu'il a une vision, lui, c'est quasiment une formule avec plein de pièces identiques sur toutes les voitures pour, quasiment un truc monotype, quoi.
Faut qu'il aille voir, comment ça s'appelle, là.
La Super League Formula.
Voilà.
c'est vrai qu'il y a un règlement qui fixe des limites. L'inconvénient, c'est qu'on l'a tous dit l'an dernier avec l'affaire du diffuseur, c'est que le diffuseur, une fois qu'ils ont accepté le diffuseur, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et aujourd'hui, ils sont encore en train de se manger le poing parce que, maintenant, il y a les diffuseurs, les écuries, et les mecs étaient pas au courant. Les écuries, ils se servent du trou qui sert à démarrer les F1 comme d'un autre niveau du millefeuille que sont devenus les diffuseurs. Et maintenant ils disent, ça vous pouvez pas vous en servir. Eh ben, il fallait déjà, dès l'année dernière, partir sur le principe du diffuseur et dire non, stop, on arrête. Finalement, ils laissent aller comme ça, par choix politique ou par volonté de relancer les courses, etc. Ils s'assoient sur leur propre règlement.
Je suis pas d'accord avec Dino, en fait. Pour moi, je trouve ça génial que... Pour moi, la F1, c'est vraiment ça. C'est une recherche perpétuelle des ingénieurs pour trouver le petit truc, la limite du règlement pour que ça passe, etc. Après, le problème, tout ça, c'est que ça engendre des coûts qui sont devenus monstrueux. Oui. Parce qu'à l'époque, justement, où il n'y avait pas les grands constructeurs, les écuries, elles avaient quand même un budget plus serré et, on avait des ingénieurs géniaux comme Chapman ou d'autres qui se faisaient des nœuds au cerveau pour trouver le super truc. Oui, je vais te laisser parler après. Je suis totalement contre le fait
de... Je savais pas pourquoi il se barre.
Non, je suis contre le fait de brimer justement et d'interdire toute...
À chaque fois, je m'arrête parce que je veux pas t'interrompre.
C'est bon, tu peux y aller.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec... Je m'en fous, ça, mon âge, je vais supprimer mes noms, mais tu passeras pour un con à te marrer tout seul. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, moi, je dis pas, au contraire, je trouve ça bien que justement on relaisse que la liberté elle soit pour les ingénieurs, même si je pense qu'il serait pas mal de fixer un budget plafond. Pas 45 millions, mais je pense par exemple 150 millions. Les meilleures solutions aérodynamiques ces dernières années sont venues de petites... On m'a toujours dit, Minardi, c'est pas beaucoup de moyens, et pourtant les mecs, ils se trouvent des solutions aérodynamiques qui mériteraient d'être développées un peu plus, et voilà, ils permettent à des petits ingénieurs de développer plein d'idées. Maintenant, c'est vrai que faut quand même regarder la réalité en face, c'est qu'on a une fédération internationale qui a fait un règlement, et qui dans cette décision va totalement à l'encontre de l'esprit de son règlement. C'est bien parce que justement ça redonne liberté à la vitrine et la vitrine technologique qui est la F1, mais il y a quand même un double discours de leur part.
Sinon, et toi, Shinji?
Bah moi je préfère quand même quand il y a de la liberté. Je suis un peu comme toi, Enzo.
Enfin... Mais comme moi aussi. Mais sérieux, je traduis juste ce que vous dites, Stéphane. C'est Steph Core.
Mais lui, il inverse, non?
Mais oui, ouais, non, mais lui,
elle est tordue, sa question
lui,
aussi. Hein.
Oui. Hein. Lui, il préférait qu'il y ait des cadres plus stricts. Ouais,
et ben, qu'il aille voir la Super League Formula.
Super League, voilà. Non,
alors.
Qu'il aille voir le SAV de la Super League Formula.
Mais c'est vrai que si on compare par exemple avec le GP2 où le cadre est technique est plus strict, les courses de GP2 sont quand même beaucoup plus passionnantes que les courses de F1. Mais c'est pas avec un règlement qui tend à se rassembler, parce qu'en GP2 il n'y a pas de ravitaillement en course. Bon, les courses sont plus courtes.
Ouais.
Et au niveau changement de pneus,
il n'y a pas de ravitaillement.
Mais non, mais voilà, c'est bien ce que je dis. C'est justement la comparaison peut commencer à se faire d'un point de vue spectacle, vu que les deux règlements commencent peu à peu à se rapprocher.
C'est plus strict aussi parce que je pense qu'il y a moins de budget.
Oui, non, mais voilà, on est bien d'accord.
Ils ont peut-être deux ingénieurs par équipe, ou j'exagère, mais pas beaucoup, et voilà.
Mais c'est aussi ce qu'on a toujours dit, hein, c'est que c'est toujours une question de choix, soit entre la F1 vitrine technologique au risque que des fois l'aspect sportif, voilà, tout le monde s'accorde à dire que les titres Ferrari ne les a pas volés dans les années 2000, mais c'est parce qu'ils étaient technologiquement supérieurs aux autres, à ce moment-là. Maintenant, faut voir, est-ce qu'on veut privilégier le spectacle? Ou est-ce qu'on veut privilégier la technologie? Là, en ce moment, on est en train de faire n'importe quoi, puisqu'on veut ménager à la fois la chèvre et le chou.
Dernière question de Steph Core. Quelles mesures prendriez-vous pour améliorer les dépassements en F1? Ou pensez-vous qu'il ne faut rien changer et patienter quelques grands prix pour se faire un avis? Moi, je pense qu'il faut patienter, parce que de toute façon, Bahreïn, c'est Bahreïn.
Moi, je proposerais un truc. Tiens, ça me vient comme ça, là, d'un seul coup.
Vas-y.
Mais ça serait une super idée. Eh bien, faire un compteur pour les pilotes, et à chaque fois qu'un pilote double, je sais pas, moi, 3 ou 5 voitures, pas forcément dans la même course, hein, ça se cumule au cours de l'année, bah, il gagne un point en plus.
Ah.
Mais, pas un retardataire, hein. Vraiment
un dépassement. Un vrai dépassement.
Comme ça, entre deux pilotes de la même écurie se mettent d'accord, et ils se doublent sans arrêt.
Voilà.
Ah bah, Ferrari va vite avoir des points d'avance.
Non, j'ai pas d'idée pour répondre à sa question.
Et toi, Yannick, une idée?
C'est bien évidemment, faut attendre quelques grands prix. Même si je partage pas l'opinion qui est de dire, voilà, Bahreïn c'est de la merde. De toute façon, on s'en fout, c'est une course typique Bahreïn. Bahreïn a déjà ouvert la saison en 2006 et la course avait été très intéressante. L'année dernière, Bahreïn nous a offert aussi une course très intéressante. Peut-être même l'une des plus intéressantes de la saison. Voilà, je pense que c'est surtout parce que les équipes y sont allées avec le frein à main. On verra sur les prochains Grands Prix, mais c'est pas non plus bête de commencer déjà à réfléchir à des solutions pour pas se retrouver la tête dans le sable dans quelques Grands Prix et se dire on n'a pas encore réfléchi. Et il y a, je sais plus qui avait les propositions, c'était de Alain Prost, je crois, ou enfin c'est un ancien pilote qui avait dit quitte à revenir au règlement. Type 94, enfin 94-93, où on revient avec le plein, autant faire les choses
à fond.
Ah
bah c'est Prost.
et revenir avec avec le bah voilà, c'est t'as un type de pneu seulement pour la course, avec soit interdiction d'en changer, soit t'en changes quand tu veux, mais de toute façon on s'en fout, il y a qu'un type de pneu. Donc les mecs sont pas en train de gérer leur voiture parce qu'il faut économiser les pneus tendres. Les mecs ils se donnent à fond quoi qu'il arrive, parce que la seule solution qu'ils ont, c'est pas d'économiser des pneus, c'est pas de ravitailler, c'est d'aller à fond. Et moi qui étais, c'est vrai, l'année dernière, plutôt content qu'il y ait toujours le maintien des deux types de pneus, je me dis qu'effectivement, s'il n'y avait qu'un seul type, bah là, pour le coup, le côté, les mecs doivent se sortir les doigts du cul pour gagner des places, là, oui, peut-être qu'on l'aurait plus, parce que pour le moment, c'est pas ce qu'on a.
Je suis assez d'accord.
Alors, concernant les classements officiels, bon, le classement pilote, c'est le même que la course, bien évidemment. Le classement constructeur, on a Ferrari qui est devant 43 points, McLaren-Mercedes, 21 points.
Déjà.
Mercedes 18 points, Red Bull 16, et alors là, grosse marche, Force India 2, Williams 1.
Ouais. Alors, ça va vite se creuser les écarts.
Ça risque de vite de se creuser.
Alors, disons que cette année, Renault ne devrait pas avoir de difficulté à battre son nombre de points. Théoriquement.
On passe au fait marquant de la course.
On peut peut-être juste marquer le résultat d'un sondage qu'on avait fait sur le site du SAV, savf1.fr.
.nf.
Si on a changé d'adresse.
Ah non
arrête, dis pas de conneries. Donc on avait posé la question, quel est selon vous le fait marquant de l'intersaison ? Il y avait eu 5 propositions, dont 2 qui n'ont reçu aucun suffrage. Les propositions étaient le retour de Michael Schumacher, les difficultés des petites écuries, le flou qui persiste sur la hiérarchie des performances, les nouveaux départ en cascade, Toyota et Bridgestone, et l'émergence de Stéphane Grand Prix. Les deux dernières réponses citées n'ont reçu aucun suffrage. Le flou qui persiste sur la hiérarchie des performances et les difficultés des petites écuries, notamment Campos et USF1, ont réuni 31% des suffrages, tandis que c'est bien évidemment le retour de Michael Schumacher qui a été désigné fait marquant de l'intersaison 2010.
C'est surprenant.
Voilà. Oh oui.
C'est surprenant, c'est étonnant.
Alors, le fait marquant de la course.
Alors.
Allez.
Je vais me lancer.
Vas-y, lance-toi.
Le dépassement d'Alonso sur Massa au deuxième virage. Le dépassement, en patron. De Massa, Alonso sur Massa.
Alors, moi, je vais dire Lotus, qui est la seule nouvelle équipe à avoir classé ses voitures.
Bon, vous êtes gentil avec moi.
Vas-y, sors ton truc de malade qui va...
Je vais tout simplement dire... la casse mécanique de Vettel. C'est un petit peu le seul fait marquant de la course. Okay. Et en fait, je pense qu'il faudrait qu'on mette un petit peu de piment cette saison dans ce...
Je crois que c'est pas déjà assez compliqué de trouver un fait marquant.
Non, mais voilà, que à la fin, je sais pas, les deux perdants, enfin celui qui aura gagné lors du dernier Grand Prix le plus de faits marquants auprès des auditeurs, soit récompensé par une petite chanson, un petit sketch.
Ouais, mais il y en a qui votent plusieurs fois.
Oui. Et je me retiens parce que moi, je peux voter souvent.
Donc vous irez sur le site savf1.fr sans le NF.
Ça fait bizarre.
Donc pour voter, ça sera mis en ligne.
En même temps que l'émission.
C'est
ça. Donc normalement, c'est déjà fait au moment où vous nous écoutez.
Tout à fait. D'ailleurs, vous avez peut-être même déjà voté.
Voilà.
On va aller voir les résultats d'ailleurs. Eh bien, c'est le dépassement en patron de Alonso sur Massa qui l'emporte.
Mais comme tu me l'as appris, c'est trop subjectif ce que tu mets. Le en patron est peut-être un petit peu en trop.
Eh ben peut-être.
Bon. Après le côté clair de la course, on va passer au côté obscur de la course.
Ah putain, j'ai oublié.
Ah non, merde, tu peux pas oublier les drive pro. Tu peux pas oublier les drive pro.
J'en avais un.
Qui ont fait
le hit. Eh ben, j'ai pas aimé le podium. Il y avait trop de rouge. Moi, j'en ai un. C'est pas très long, donc à la limite, je préfère le faire en premier, comme vas-y, ça, c'est évacué.
Le mien non plus n'est pas extrêmement long.
Voilà. Moi, je voudrais juste lancer un drive-thru à la FIA pour faire original.
Ouais.
Voilà. Juste parce que la FIA nous a, il y a eu la polémique sur l'aileron McLaren, soi-disant movible, etc. Mais derrière, il y a une autre polémique qui se cache, c'est la polémique sur vraiment le poussage à l'extrême des diffuseurs. Et ce qui est quand même appréciable avec la FIA, c'est comme toujours, hein, ils ont assuré qu'il y aurait des éclaircissements pour Melbourne. Donc c'est-à-dire qu'au Grand Prix de Melbourne, les équipes vont arriver avec leur diffuseur sans savoir s'il sera définitivement légal ou si elles devront le retirer pour mettre un autre diffuseur. Donc voilà, c'est la même chose.
Ils disent pas qu'il y aura effet immédiat.
Non mais voilà, ouais. c'est pareil. Déjà McLaren a été autorisé, c'est ce qui est dit, hein. Ils sont autorisés à courir sur la course de Bahreïn avec un diffuseur qui, pour le moment, est estimé illégal. Et donc c'est n'importe quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y aura pas de sanctions rétroactives ou quoi que ce soit. Enfin c'est dans depuis ce que je dis tout à l'heure, c'est l'improvisation la plus totale. Et ça rejoint notamment la deuxième partie de mon drive-through, c'est le temps qu'il a fallu. Il a fallu attendre 2 semaines avant le premier Grand Prix pour avoir la liste définitive des écuries. Et il a fallu attendre quasiment 3 mois avant que la FIA se réveille pour aller voir USF1 où en était ce projet, faire un vrai bilan. Ils n'avaient jamais envoyé personne. Moi, je dis que la FIA commence la saison 2010 de la meilleure des manières. Et que la catégorie la FIA fait le bien de l'humanité de la F1 et des castors pour l'année prochaine les SAV d'or sera très très fou.
Mmh. Enzo,
j'avais un drive-through, je voulais changer là, mais non, je vais garder mon drive-through initial. En fait, il est contre vous deux parce que l'an dernier vous trouviez toujours à redire quand je disais que Rosberg faisait des belles courses, mais là quand même, je trouve que pendant tous les essais, il a dominé Schumi. Certes, que ça fait 3 ans qu'il n'a pas couru, etc. Mais voilà, donc je pense que Rosberg a un réel gros potentiel. On parle beaucoup de Vettel, mais je suis persuadé que Rosberg a le même.
Oh non, oh non.
Et donc, mon drive-through est contre vous, messieurs.
Et au moins, on a mérité d'être constant. C'est-à-dire, l'an dernier, on descendait Rosberg, même s'il faisait des courses. Cette année, on recommence. Voilà, donc, on est logique.
Et mon deuxième drive-through, c'est contre ceux qui retournent leur veste.
Oh oui.
Oh, c'est lui qui dit ça.
Non, parce que moi, dès l'an dernier, je commençais à dire vivement qu'il y a Alonso, parce que
c'est vraiment, vrai.
Il se bat au moins pas contre Raikkonen, etc.
Toi, tu craches de la soupe, mais c'est incroyable.
En vrai fan de Ferrari, je suis désolé, en vrai fan, parce que moi,
non,
je suis vrai
fan de Schumi.
Oui, non, mais j'étais fan de Schumi en rouge. Schumi en gris, c'est plus pareil. Et je te jure, c'était le jour des vrooms, quand il est descendu de son petit hélicoptère avec sa petite tenue rouge. Il avait juste un blouson rouge. Mais le voir en rouge, Alonso, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai un pilote Ferrari.
Et ça t'a pas fait le même effet, quand il est arrivé au Ferrari Days avec son petit jacquard rouge, ça t'a pas fait le même effet?
Mais non, parce que le jacquard, ça me rappelait les losanges de Renault, et non.
Alors, mon drive-through, alors, je tiens à préciser, surtout face à Yannick, parce que Yannick, il sait des choses. Ce drive-through n'a rien à voir avec le fait que j'ai acheté une nouvelle télé samedi. Moi, il serait contre la FOM. Pourquoi? Parce que c'est la FOM qui s'occupe de la diffusion des courses.
Et c'est toujours pas en HD.
C'est toujours pas en HD. Rappelons quand même que les matchs de la Coupe de la Ligue sur France Télévisions sont diffusés en HD. Hein. On parle de la Coupe de la Ligue.
Bon, encore faut-il capter France Télévisions en HD. Hein. C'est pas mon cas en tout cas.
La F1 qui est quand même un des sports les plus populaires au monde, les plus vus au monde, qui est quand même un des sports qui véhicule le plus l'image de technologie, c'est une évidence, qui est quand même sponsorisé par LG, fabricant de télé HD, je le sais bien, depuis samedi.
Vous aurez compris, hein.
Et donc, malgré tout ça, eh bien, la F1 n'est toujours pas diffusée en HD, hein, sous prétexte qu'il faut qu'il y ait plus de la moitié des télés qui demandent la HD. Et qu'apparemment il y aurait pas assez, donc ça coûterait trop cher. Et je trouve que c'est pas normal pour l'image d'un sport comme la F1. Alors que on voit d'autres sports, même des conneries comme la Coupe de la Ligue, être diffusées en haute définition. En plus, vous avez vu cette année, on a eu des nouveaux synthés, des nouvelles informations et tout.
Ah, c'était bien ça.
C'était bien, hein.
Sauf en qualif.
Oui, parce que t'as pas eu les petits carrés sur le côté, c'est ça.
Ah non, mais c'était chiant. Moi,
quel carré.
C'est la liste des pilotes sur la gauche.
Oui.
Tu formes une colonne.
Oui.
Et ben en qualif, ça y était pas. Et Yannick, il est déçu.
Mais les enfants, regardez les Grands Prix avec votre iPhone et l'application qui va bien pour ça.
Ah ouais, l'application qui coûte un bras.
Un bras pour regarder sur un petit écran.
Eh oui, mais c'est bien quand même. D'accord.
En plus, c'est bien parce qu'on avait, alors pas un menu déroulant à l'américaine, mais quasiment tous les 3-4 tours, on avait voilà. Un rappel.
C'est pas aussi important de savoir, surtout à Bahreïn, c'était pas aussi important de savoir les positions en temps réel.
Non, non, oui, c'est évident. La course. Mais que t'aies ça toutes les 5 minutes, c'est déjà un énorme progrès par rapport à avant, où il fallait parfois oui, attendre voilà. 15 minutes avant d'avoir le
temps. Mais en qualif, ça serait quand même bien qu'on aille le petit bandeau qui nous donne en temps réel les positions de chaque pilote.
Ah, ça serait utile, oui.
Il y était l'an dernier et là je l'ai pas retrouvé. Ça m'a
stressé. Aussi, vous avez remarqué qu'au niveau des arrêts au stand, on avait désormais le temps ligne à ligne.
Oui.
Ouais. Mais aussi le temps à l'arrêt, parce que Yannick il l'a pas vu, mais lorsque la voiture sort, on a le temps donc complet.
Je m'appelle Dino.
De passage au stand, mais aussi le temps d'arrêt. Donc voilà, c'était mon drive-thru.
Bah, c'est une belle petite fournée là pour la première.
Oui, voilà. Alors on va passer au concours.
Ah ouais.
Super bien préparé.
Ah ouais, concours top position. Alors cette année on va un petit peu changer dans le concours. Parce que vu que vous recevez vos magnettes, enfin vu que Globen reçoit ses magnettes toujours 3 semaines en retard, et que les autres les reçoivent quand Globen ne gagne pas. On a décidé de faire un concours un peu plus sympatoche où vous marquerez des points à chaque fois que vous gagnerez, puis il y aura un lot à la fin de l'année. Donc on va un peu plus travailler ça maintenant qu'on s'est posé la question. Et en plus, quand vous répondez à la question au concours, vous pouvez poser la question du concours de l'émission d'après. C'est pas une bonne idée, ça. Donc par conséquent, vous pourrez pas participer, si vous êtes choisi, vous ne pourrez pas participer à la question concours de l'émission d'après.
Logique.
Donc, voilà. Donc, attention, chaque réponse ne sera validée que s'il y a une petite question avec. Donc,
par contre, la question, elle doit avoir un rapport avec le prochain Grand Prix.
Bah oui, enfin.
Non, avec ce qui est passé.
Oui.
Voilà. Ouais, on va faire comme ça.
Donc, donc il faut qu'il pose une question sur le Grand Prix.
Sur le Grand Prix, sur une actu, enfin peu importe.
D'accord.
Voilà.
Une question sur la F1, quoi.
Oui, parce qu'en, alors, il y a une petite nouveauté, c'est que c'est plus Enzo qui présente.
Oui, il en a marre, questions. Donc, voilà.
Mais pourquoi Enzo? C'était bien l'an dernier, tu passais juste 3 heures à les faire. Donc, la question, cette semaine, vous envoyez la réponse, via le formulaire du savf1.fr. La question, elle est toute simple. Vous vous rappelez en début d'émission que Enzo nous a parlé de son traumatisme, de son post-traumatisme quant à la après son enlèvement. Eh ben, on voudrait juste savoir en quelle année Enzo pensait être à ce moment-là. Voilà, on vous envoie la réponse.
Ouh, attention, il y a un piège dans ta question.
Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, petit message informatif à l'égard de tous nos auditeurs. Suite à une erreur personnelle lors de la migration, nous avons perdu le podcast sur iTunes. Mais bonne nouvelle, c'est qu'il y est de nouveau, mais plus à la même adresse.
Ah, c'est malin.
Donc voilà, donc on vous donnera le lien dans l'article sur le SAV. Donc si jamais il y a des gens, bon, théoriquement vous nous entendrez pas si vous n'avez pas iTunes. Enfin. Donc théoriquement si vous nous entendez, c'est vous êtes d'abord venu sur le site parce que vous pourrez pas le trouver ailleurs ce podcast. Donc voilà, donc sur l'article, je vous mettrai le lien pour pouvoir accéder au nouveau podcast iTunes qui change pas, hein, sinon vous cherchez SAV de l'iPhone et
il faudrait que tu mettes un article sur l'ancienne adresse du podcast pour dire voilà la nouvelle.
Alors, prochaine course, enfin notre grand prix matinal préféré.
Hein, ah ouais, non.
3h du mat.
Ah ouais.
L'Australie. Alors, un petit prono pour l'Australie,
hein. Alonso.
Oh non.
Ah non.
Alonso, je suis désolé.
Enzo.
Ah, j'ai pas le droit de dire Alonso.
Aussi, tu peux.
Ah, ça a changé.
Ah, on va tous dire Alonso. Tu crois que c'est Alonso, on va pas te forcer.
Massa.
Bah, je dirais Schumacher.
Mais j'ai hésité.
Ouais, elles pourraient être pas mal les Mercedes parce que la voiture est assez courte et donc peut-être que sur le l'Albert Park ça pourrait passer.
Oh, pourquoi pas Vettel?
Oh, putain, qu'est-ce qu'on est
original. Ah, attention, hein. On a pas dit qu'on allait être original. On a juste dit que cette année,
c'est vrai.
On pouvait dire deux fois le même. C'est tout. C'était le SAV de la F1 consacré à Bahreïn. Je bafouille, je commence à fatiguer.
Ouais, on vous... t'as vu, c'est long, hein, c'est dur. Ouais. Hein. Attention.
On vous souhaite une bonne course en Australie, mais on n'en doute pas. Parce que de toute façon, ce sera forcément quand même mieux qu'à Bahreïn. Le cadre, rien que le cadre.
Ah oui, on espère, c'est, on est bien d'accord.
C'est aussi chiant, il y a le cadre. Donc, préparez bien le café, parce que ça va être tôt, mais ça va être bien.
C'est pas 3 heures.
C'est 4 heures. 4
heures.
Oh la vache.
Mais ça s'est revenu à l'horaire original.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui.
Ils ont pas gardé le 17 heures. J'ai un doute là.
Non, je crois qu'ils sont revenus, parce que si tu te souviens, la fin de la course était au crépuscule.
Pourquoi c'est pas marqué dans les guides? Attends.
Ouais, si, ça doit être marqué.
Je sors les 15 guides de la F1 que j'ai acheté.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Enzo dévalise la presse, hein. Chaque début de saison.
J'ai 6 guides de F1 2010.
Waouh.
Ah la vache.
Heure locale 17h, heure française 9h, les enfants.
Donc c'est 9h. Ah, oui.
C'est
donc c'est bien l'horaire de l'année dernière.
C'est l'horaire de l'année. Donc sur ce, bonne soirée, bonne journée, tout dépend à quelle heure vous nous écoutez.
Bonne nuit.
Attention au volant.
Attention au poteau aussi.
Et ben voilà, trop tard, on avait dit attention les mecs, hein. Faut regarder aussi en face. Hein.
Salut à tous.
Bonne soirée. Ciao.